Bonjour, je suis si heureux d'être de nouveau ici ce matin, au service du Seigneur. Il fait mauvais à l'extérieur, mais oh, il fait vraiment bon ici à l'intérieur. Pour une fois, on peut dire que c'est agréable d'être à l'intérieur pour regarder à l'extérieur, n'est-ce pas? D'être à l'extérieur pour regarder à l'intérieur. J'ai bien dormi cette nuit et je me sens beaucoup mieux ce matin. Nous avons passé des moments merveilleux hier soir, n'est-ce pas? Des moments vraiment merveilleux. Et j'en suis reconnaissant. Nous avons eu, on aurait dit que cette réunion était pareille à celle que nous avons eue là-bas à Shreveport. C'était presque la continuation du mouvement de l'esprit. Ah oui, nous sommes donc très heureux et si reconnaissants à Dieu pour sa bonté et sa miséricorde. Et pour vous, pour votre collaboration, vous qui lui avez consacré votre esprit afin qu'il nous conduise et nous guide. Voyez, si vous avez un auditoire hostile, le Saint-Esprit ne révélera rien du tout. Il faut absolument qu'il y ait une coopération. Ils étaient dans le même lieu, d'un même accord. Ensuite est venu du ciel un bruit vif. Voyez, mais quand vous avez, peu importe combien je pourrais prier, restez là, étudiez jour et nuit, et à prier devant le Seigneur. Si je m'avance ici, que l'onction est peut-être sur moi, dès que je monte ici et que je ressens cette hostilité. Voyez, il va juste, cela l'attriste immédiatement, et il ne révélera rien. Mais quand on s'avance ici, sous l'onction, et qu'on sent que son auditoire est sous l'onction, c'est là que le Saint-Esprit se met à l'œuvre. Il commence à se mouvoir et à faire de grandes choses pour nous. Alors, vous voyez, je n'ai pas encore parlé au pasteur au sujet de « J'ai entendu, crois seulement ». Alors je suis venu en vitesse pour voir ce qu'il était, ce qu'il avait prévu pour ce matin. Bon, Trémeville, voici ce que je vais faire. Je vais commencer ces petites leçons et si je termine vers 11h, c'est bon, tu prendras la relève pour commencer à prêcher. Qu'en penses-tu? Oh, je crois que l'onction est aussi ici derrière. L'onction est aussi ici derrière. Il est un... Frère Neville a toujours, aux nouveaux venus qui sont peut-être ici pour la première fois, c'est un, je ne le dis pas parce qu'il est là, mais un homme bienveillant. Il l'a toujours été. Il a toujours lu cette mise en pratique, ce passage de l'Écriture qui dit d'user de prévenance réciproque. Il est toujours en Christ. Il use toujours de prévenance. C'est ainsi qu'il est depuis que je le connais. Pas seulement depuis qu'il est ici au tabernacle, mais depuis que je le connais, il y a bien des années. La première fois que je me souviens avoir vu Frère Neville ou fait connaissance avec lui, c'est la fois où j'étais allé l'écouter prêcher là-bas, à l'église méthodiste, à Howard Park. Il y a bien, bien des années. Ça fait, je crois, 20 ans, je crois, ou plus, que j'ai fait connaissance avec lui. À l'époque, il travaillait aussi, il était... Oh, je crois que récemment encore, il travaillait dans le secteur forestier et tout à Henryville, d'où il vient. Il travaillait pour gagner sa vie et prêchait aussi. C'est ce que je faisais, moi aussi, jusqu'à récemment, quand nous en sommes arrivés au point où nous ne pouvions plus rien faire d'autre que ceci. Alors, j'en suis heureux. Je suis heureux de notre nouveau patron, n'est-ce pas, Frère Neville? Oui, monsieur, je l'aime vraiment. Oui, monsieur, je suis tellement satisfait de lui. Bon, je crois qu'on va annuler les classes de l'école du dimanche. Oui, la classe de l'école du dimanche des enfants sera annulée parce que la salle est... On a enlevé les cloisons afin de faire en sorte que l'église se prolonge jusqu'au fond. Eh bien, ce soir, nous verrons le dernier grand âge qui est Laodicée. Hier soir, nous avons vu l'âge de Philadelphie. Et nous avons avancé jusqu'au début de l'âge de Laodicée, le chevauchement entre les deux. Et il y a aussi eu ces grands mystères que Dieu a commencé à nous révéler entre ces deux âges. La porte ouverte, peu de force, tu as gardé ma parole, tu as mon nom. Tous ces petits points qui sont contenus, oh, comme Dieu les a merveilleusement rendus réels pour nous. Et nous en sommes très, très reconnaissants. Et n'oubliez pas, s'il y a parmi nous des visiteurs qui ont des malades, nous prierons pour les malades dimanche prochain, dans une semaine. Et ce sera, si le Seigneur le veut, et ce sera, avez-vous déjà remarqué que j'aime préciser, si le Seigneur le veut, la Bible dit de le faire. Si le Seigneur le veut, nous ne savons pas encore, il ne m'a pas dit que je serais ici et que l'Église serait ici. et que nous serions tous ici, ou quoi que ce soit d'autre. Alors, si c'est sa volonté, nous serons ici, vous voyez. Si ce n'est pas sa volonté, c'est sûr que nous ne le serons pas. Frère Neville l'annoncera continuellement dans son émission à la radio, les autres aussi, je suppose, ce frère-ci et tous ceux qui ont des émissions à la radio. Venez donc le plus tôt possible dimanche matin, parce que nous nous attendons à une grande foule qui viendra pour la prière. Et nous voulons venir. Nous allons, eh bien, voyons voir. S'il y a une grande foule comme celle-ci, c'est toujours mieux d'avoir des cartes de prière, parce que les gens sont tellement serrés. Les gens se bousculent et tout. Je pense que si nous faisons cela d'une façon disciplinée, afin qu'ils s'avancent un par un, cela fait en sorte d'éviter qu'il y ait de la confusion parmi les gens, vous savez. Et vous n'avez même pas besoin de vous lever jusqu'à ce que votre carte soit appelée. Vous restez simplement assis où vous êtes. Si vous êtes malade et que vous ne vous sentez pas bien, alors vous n'avez pas à rester debout dans une longue file. Puis, quand on appelle votre carte, vous montez ici pour qu'on prie pour vous. Vous redescendez. Ensuite, un autre monte, et ainsi de suite. Je préfère vraiment cela. D'habitude, je demande aux frères de prévoir des chaises, au cas où quelqu'un se sentirait mal pendant qu'il attend. Et je fais venir quelques personnes à la fois. Si quelqu'un se sent mal, eh bien, qu'il attende là, sur sa chaise, qu'il s'assoie sur la chaise, jusqu'à ce qu'on appelle son numéro, jusqu'à ce que l'on puisse prier pour lui. Certes, je crois à la guérison divine. C'est l'une des grandes doctrines de la Bible. Mais dans la guérison divine, il y a plus que la simple guérison divine. La guérison divine ne fait que déclarer qu'il existe un Dieu qui va revenir. Qu'est-ce que la guérison divine indique? Elle est le gage de notre résurrection. S'il n'y a pas de guérison divine, alors il n'y a pas de résurrection, voyez-vous? Et s'il n'y a pas d'Esprit Saint qui nous baptise maintenant, alors il n'y a pas de vie éternelle dans le monde à venir. La Bible dit que c'est le gage de notre salut. Et vous savez ce qu'est le gage? C'est la compte, voyez-vous? Si vous allez verser, disons que vous achetez une ferme pour laquelle on demande 10 000 $ et que vous versez 2 000 $. Ça, c'est votre gage, votre compte, comme on dit, le gage versé. Donc, si le baptême du Saint-Esprit n'est que le gage de ce qui va venir, oh, qu'est-ce que ce sera quand nous recevrons le prix total? Ce sera glorieux. Bon, ce matin, nous allons essayer de faire concorder, si le Seigneur le veut, certaines de ces choses entre les âges de l'Église. Ces choses qui se trouvent juste ici. Il y a quelque chose qui s'insère là. Les 144 000, le reste, la Vierge endormie, la Vierge sage, et le scellement du Saint-Esprit, la marque de la bête, toutes ces choses, c'est la fin de l'âge. Et tout ça se retrouve ici, au même endroit. C'est pourquoi nous devrions prendre tout le reste de l'hiver juste pour traiter de ceci. Mais nous, pour prendre le livre de l'Apocalypse et voir comment cela concorde. L'avez-vous déjà remarqué? La civilisation a suivi le même trajet, Monsieur Wood. L'homme possède les mêmes sens. Il possède 6 sens. Ou plutôt 5 sens, qu'il possède depuis qu'il est arrivé sur la terre, il y a 6 000 ans. Mais juste ici, dans la dernière, juste dans ce dernier laps, les 100 dernières années, oh là là, il a progressé. Autrefois, il se déplaçait lentement en char à bœuf. Mais au cours des 100 dernières années, de ce char à bœuf, il est passé du char à bœuf à la fusée qui vole à près de 3000 km à l'heure. Voilà à quel point il a rapidement progressé, du char à bœuf à la fusée. Et remarquez que tout ça, c'est juste au cours de ces quelques dernières années. En fait, je dirais que ça fait à peine une 50aine d'années. Quand j'étais un jeune garçon, ici, sur Utica Pike, il y avait un homme du nom d'Elmer Frank, qui vivait par ici. Il était en quelque sorte un avocat. Il avait épousé une jeune femme qui vivait sur la route là-bas. Mon père travaillait pour son père. Elle s'appelait Lucher. Et il avait un genre d'automobile qui était équipé d'une manivelle. Il fallait aller sur le côté de la voiture pour la démarrer à la manivelle, comme ceci. Et elle n'avait qu'une seule vitesse. Il y avait aussi un gros truc en caoutchouc qui servait de klaxon. Et c'est ainsi qu'on klaxonnait. Et il disait, cela pouvait atteindre la vitesse incroyable de 30 km à l'heure. Là, papa est allé à charger le chariot de sable. Puis il a ramené cela là-bas et a rempli des sacs pour la maintenir au sol, pour voir si elle pouvait vraiment atteindre 30 km à l'heure. Voyez, mais vous auriez dû voir l'état des routes. Ah oui, elle faisait environ 16 km à l'heure dans cette direction-ci et 14 de haut en bas dans cette direction-ci. Voyez, donc ça faisait en tout 30 km à l'heure. Je me souviens que nous tous, enfants, maman nous l'avait tous. À l'époque, nous étions 5, je crois. Nous restions près de la clôture pour entendre cela. Nous entendions cela venir à des kilomètres, de tout là-bas. Et ça faisait « row, 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 row ». Tout le monde s'arrêtait et tenait ses chevaux en bride. Je sortais de la voiture à cheval et je les tenais comme ceci, vous savez. Cette chose-là avançait sur la route. Oh là là, c'était une chose formidable. Et je pense qu'à l'époque, j'avais à peu près 7 ans. Voyez, comment c'était aux alentours de 1914. Et pensez un peu à quel point les choses ont changé depuis ce temps-là. Vous voyez, tout juste au cours des 40 dernières années, ou quelque chose comme ça. Et remarquez, il y a eu 6000 ans pour faire toutes ces choses, parce que la Bible dit qu'il en serait ainsi. Dans les derniers jours, ils courront ça et là, et la connaissance augmentera. Avez-vous déjà pensé à Nahum quand il a vu l'Outer Drive de Chicago, il y a 4000 ans? Il a dit, il se précipite sur les chemins larges. Maintenant, j'ai été dans les vieux pays où ils avaient des rues comme à Oslo et à différents endroits. Là-bas, on a à peine de la place pour marcher. C'est juste assez large pour qu'un char puisse circuler dans leur ville. Mais c'était probablement la distance d'ici à ce mur. C'était ça, la largeur maximale de leur rue. C'était juste assez large pour permettre un char de circuler dans la rue. Eh bien, voyez, Nahum a dit, c'était des chemins larges. Et il a dit, ils courront comme des éclairs, ces chariots. Allez voir, on dirait des flambeaux. Il s'agit là de leurs phares. Et il a dit, ils se précipitent les uns contre les autres. Les accidents. Ce prophète s'est élevé au-delà du temps et a regardé très loin là-bas, 4000 ans plus tard. Et il a vu cela venir. Pensez-y. Ah oui, l'inspiration. Mais nous sommes au temps de la fin, mes amis. C'est juste, il en est de même pour les Écritures. Puisque toutes ces choses se produisent, toutes les Écritures renvoient à ce temps-ci, précisément en ce temps de la fin. Et je me suis dit qu'avec l'aide de Dieu, ce matin, nous ferons concorder certaines de ces choses. Le plus de choses possibles. Et puis, ce soir, il sera question de ce dernier grand âge, celui de l'Église de Laodicée, comment il a reçu son message avant de dévier et d'ignorer son message, pour se retrouver directement dans un état de tiédeur que Dieu a vomi de sa bouche. Voyez, autrement dit, même d'y penser, cela lui donne la nausée. « Je te vomirai de ma bouche », a-t-il dit. Maintenant, j'ai noté ici quelques passages de l'Écriture auxquels j'aimerais me référer ce matin. Mais je me demande si ce ne serait pas trop vous demander de vous lever juste un instant pour un mot de prière. Notre bienveillant Père Céleste, nous voici de nouveau ici ce matin, en ce jour de sabbat. Dehors, la pluie a commencé à tomber et le vent glacial souffle. Mais nous sommes si heureux d'avoir un toit au-dessus de notre tête aujourd'hui, d'avoir un petit endroit et encore une nation où nous pouvons venir et adorer Dieu comme notre conscience nous dit d'adorer. Et nous voyons dans ta parole que cela ne durera plus très longtemps. Alors Père, nous te prions de nous oindre d'une manière spéciale aujourd'hui pour que nous puissions tirer le meilleur de ce qu'il y a ici pour nous, afin de nous préparer pour les heures qui sont devant nous, ces heures où nous ne pourrons plus faire ceci. Nous ne savons pas combien de temps encore. C'est peut-être dans des semaines, des mois ou des années. Nous ne le savons pas. Mais un jour, nous ne pourrons plus faire ceci. Alors nous te prions, Père, de nous garder sous ta conduite divine et que nos pensées soient fixées sur toi et que les méditations de notre cœur soient agréables à tes yeux, ô Seigneur. Pardonne nos péchés. Nous te le demandons alors que nous te les confessons, car nous avons péché et nous nous sommes écartés du chemin. Nous ne sommes pas dignes d'être appelés les tiens. Fais seulement de nous tes ouvriers, Seigneur. Et nous serons prêts à faire tout ce que tu nous diras de faire. toute tâche qui nous sera confiée. Nous sommes prêts à le faire. Reçois-nous simplement dans ton royaume, Seigneur, pour que nous puissions travailler en cette grande et terrible heure à laquelle le monde est confronté. Bénis-nous maintenant par ta présence. Enseigne-nous par ton Saint-Esprit et reçois la gloire parce que nous pouvons être rassemblés ici. Amen. Car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, j'aimerais saluer chacun de mes amis qui sont ici, que j'ai vus ce matin. C'est si difficile ici le soir. Notre éclairage là derrière, les plafonds sont bas et cela empêche de voir les gens. C'est un peu difficile de voir d'ici, de cette chair, le soir. Et c'est pareil le jour. Je vois beaucoup de nos amis qui viennent de différents coins du pays. Il m'est plus facile de les reconnaître le jour que de le faire le soir. Il y en a trop pour que j'essaie de les nommer tous. Mais j'aimerais que vous sachiez que je vous apprécie beaucoup. Malgré tous ces points difficiles, tranchants et tout, que j'ai dû relever dans les Écritures pour faire ressortir la vérité. Non pas que j'éprouve du plaisir à le faire, mais c'est ce que Dieu a prescrit de faire ici, vous voyez. Et voilà, c'est ça. Cependant, je vois beaucoup de mes frères qui font partie des organisations et tout, qui sont encore ici avec moi. Alors, vraiment, je vous apprécie beaucoup. Vous, ma prière, c'est que Dieu vous bénisse et vous aide à jamais. Et maintenant, oui, frère. Merci, frère Stricker. Merci, frère Stricker. Merci, frère Stricker. Merci, Église. C'est très gentil de votre part de dire cela. J'apprécie vraiment cela. Quelqu'un parlait hier soir de... Je crois que c'est frère Fred qui m'a appelé, et il m'a parlé de la vision ou du songe qu'avait eu un certain frère, qu'il a raconté juste avant de partir hier soir. Il m'a vu debout au-dessus de l'arc de la terre, et un nuage noir qui suivait en roulant. Je sais qu'il me pourchasse, mais ça, tant que... Il ne pourra rien faire tant que Dieu n'aura pas terminé. Et alors il sera leur temps pour moi de partir. Donc, mais je pense à ceci. Ce n'est en aucun cas pour faire l'important. Non, je ne veux pas l'être, voyez. Mais je pense au psaume de la vie. La vie des grands hommes rappelle à chacun. Vous voyez ce que Paul a fait, ce que René a fait, ce que Luther a fait, ce que Wesley a fait, ou ce que Saint-Martin a fait, tout ce qu'ils ont fait. Donc, la vie des grands hommes rappelle à chacun que nous pouvons rendre nos vies sublimes et, une fois partis, laisser derrière nous des empreintes sur le sable du temps, des empreintes de pas que peut-être un autre, naviguant sur l'océan solennel de la vie. Car c'est après mon départ, voyez-vous, quand je serai parti, un malheureux frère naufragé ramasse un de ses livres et le lise. Voyant cela, reprendra courage. C'est ça. Soyons actifs, toujours à l'œuvre, le cœur vaillant, prêts à lutter. J'aime ça, pas vous? Pas comme le bétail qu'il faut pousser, faire avancer, qui doit y être mené. Soyons un héros dans la lutte. J'aime ça. Maintenant, notre petit frère Georges en avait un autre qu'il aimait bien. Je l'ai récité à son service funèbre. Nous avions l'habitude, je m'asseyais, je récitais le psaume de la vie, vous savez. Et lui, il s'asseyait et récitait « Franchir la barre ». Voyez, vous l'avez déjà entendu. Coucher de soleil, étoile du soir, un appel clair pour moi. Puisse-t-il n'y avoir aucune plainte à la barre quand je quitterai le port? Vous l'avez entendu bien des fois. Car même si, au-delà des frontières du temps et de l'espace, le flot m'emporte bien loin, j'espère voir mon pilote face à face. Quand j'aurai franchi la barre, je suis sûr qu'il l'a fait lorsqu'il a franchi la barre. Et alors, voici le mien. Une fois parti, laissez derrière moi des empreintes sur le sable du temps, pour que d'autres, voyant cela, puissent venir, prendre courage et continuer le voyage. Car un glorieux jour, Jésus viendra, et c'est sur cela que portera notre étude ce matin, et tout sera alors terminé. Maintenant, je me suis dit ce matin, vu que nous ne pourrons pas dans ces messages de l'Église, Bon, peut-être, si le Seigneur le veut, bientôt, j'aurai peut-être une autre petite série de réunions sur la vraie et la fausse Église, en commençant par la Genèse et en parcourant la Bible d'un bout à l'autre jusqu'à l'Apocalypse. Les deux Églises et ce qu'elles feront. Et puis, peut-être qu'un jour, quand nous, si le Seigneur le veut, nous ferons construire l'Église pour que vous puissiez avoir un peu plus de place assise. Vous seriez surpris du nombre de gens qui ont appelé et ont dit cela. Ils passent en voiture et voient que c'est plein. Alors, ils continuent simplement, vous voyez. Et donc, nous n'avons pas de place. Et peut-être quelque part, comme on est en été, quand il fait chaud ou quelque chose comme ça, quand on peut louer le gymnase de l'école secondaire ou quelque chose, ce serait bien de prendre le livre de l'Apocalypse à ce moment-là, ou quelque chose comme ça, ou le livre de Daniel et de l'Apocalypse, et d'établir les liens entre les deux pour que nous puissions avoir cela. Eh bien, nous n'avons rien à voir avec le peuple juif. Les Juifs étaient... Maintenant, comme je l'ai dit, dans l'âge des ténèbres de 1500, la hiérarchie catholique, lorsqu'on a établi qu'on a uni l'Église et l'État, c'était le post-milléranisme. Ils pensaient qu'ils étaient vraiment dans le millénium, parce que l'Église avait reçu son vicaire, quelqu'un de comparable à Christ, qui devait s'asseoir sur un trône, et que cela favoriserait l'union de l'Église et de l'État, puisque tout allait bien désormais, et que le glorieux millénium était en cours. Ils croient toujours cela, mais c'est une erreur, parce que le millénium ne peut pas venir, ne peut pas commencer sans la venue de Christ. C'est Christ qui introduit le millénium. Il est le fils de la prospérité. C'est quand il viendra que débuteront les 1000 ans. Au moment où cela arrivera, il y aura l'enlèvement, l'Église montera, et ensuite, il y aura le retour de Christ. Et souvenez-vous maintenant, quelle est la prochaine chose que nous attendons? L'enlèvement de l'Église. Eh bien, ne confondez pas l'enlèvement de l'Église et le jugement du trône blanc. En effet, lors de l'enlèvement de l'Église, il n'y a pas de jugement, voyez-vous. Vous avez déjà été jugé ici-bas. C'est vrai, car ceux qui sont en Christ sont affranchis du jugement. Jésus a dit, « Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne viendra jamais en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Comment le fait-on? On entre en Christ et on est baptisé pour former un seul corps. 1 Corinthiens 12, un seul corps. Nous avons été baptisés dans le corps de Jésus-Christ et Dieu a déjà jugé ce corps. Il ne pourrait pas nous passer de nouveau en jugement parce qu'il a déjà jugé ce corps. Et par la permission et la grâce de Christ, il nous fait entrer en lui-même. 1 Corinthiens 12, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous sommes affranchis de tout jugement, parce qu'il a déjà subi le jugement. Oh, n'êtes-vous pas reconnaissant envers lui? Il a subi le jugement pour nous. Plus de jugement. Mais ceux qui refusent d'entrer en lui, dans ce corps, le corps mystique, comment y entrons-nous? Par une poignée de main? Non. Par une lettre? Non. Par une sorte de baptême d'eau? Non. Par un seul esprit? Le Saint-Esprit. Nous sommes tous baptisés dans ce corps. Maintenant, souvenez-vous, nous traiterons profondément de cela ce matin. Vous êtes soit dans ce corps ou hors de ce corps. On ne peut pas y être à moitié. Un assez bon chrétien, ça n'existe pas. Et là, soit vous êtes un chrétien, soit vous n'êtes pas un chrétien. Il n'y a pas d'oiseau noir qui soit blanc, pas d'homme ivre qui soit sobre. C'est impossible. Soit vous êtes chrétien, soit vous n'êtes pas chrétien. Soit vous êtes en Christ, soit vous êtes hors de Christ. Bon, cela peut avoir l'air d'un enseignement. Je suis loin d'être un enseignant. Mais l'enseignement est une chose qui tranche. C'est un don spécial dans le corps de Christ. Premièrement, il y a les apôtres, puis les prophètes, puis les enseignants. Ensuite, les évangélistes et les pasteurs. 5 dons relatifs au ministère dans le corps. Et l'enseignement, c'est l'un des dons de l'Esprit. Maintenant, je ne fais que continuer avec ce que je crois être juste. Et j'essaye de l'apporter aux gens. J'étudie et je fais le lien entre les Écritures. Bon, mais c'est seulement en Christ. Le corps de Christ doit être reconnu. Bon. Les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse traitent de l'Église, les gens des nations, les Juifs, les Éthiopiens, les Afrikaners, tous les peuples du monde font partie des gens des nations. Ce sont eux qui forment ce corps, qu'ils soient noirs, blonds, bruns et tout. C'est un bouquet de fleurs, c'est vrai, que Dieu met sur son autel. Il est formé de toutes nations, tribus, langues et peuples. Mais maintenant, après qu'on passe le chapitre 3, ces âges de l'Église dont il est question ici, Dieu revient et traite avec les Juifs. L'Église n'apparaît plus jamais pendant cet âge. Il s'agit des Juifs. Et Dieu ne traite pas avec les Juifs en tant qu'individu. Il traite avec Israël en tant que nation. Toujours en tant que nation. C'est comme ça que quelqu'un l'a compris l'autre jour. J'ai reçu beaucoup de lettres au sujet de la religion hybride, que j'ai fait une remarque. La Bible dit qu'un enfant illégitime, ce que l'on appelle un enfant bâtard, ne pouvait pas entrer dans l'assemblée du Seigneur pendant 10 générations, ce qui fait qu'un enfant illégitime ne pouvait pas entrer dans l'assemblée du Seigneur pendant 400 ans. Voilà à quel point l'hybridation était une mauvaise chose. Autrement dit, si une femme laissait un autre homme vivre avec elle afin d'avoir un enfant, cet enfant était hybride, pas de son père, mais d'un autre homme. Voyez, c'était si mauvais aux yeux de Dieu qu'il fallait 10 générations pour complètement effacer cela devant Dieu. Mais cela ne s'applique pas à cet âge-ci. Aujourd'hui, vous avez la nouvelle naissance. Autrefois, il n'avait qu'une seule naissance, et c'était en fait la reproduction par le sexe. Aujourd'hui, nous avons cette nouvelle naissance qui est spirituelle. Elle ôte toute impureté, et nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ, nées de nouveau de l'Esprit de Dieu. De nouvelles créatures. Le mot créature, si certains d'entre vous, les bons érudits, comprennent cela, sinon vous pourriez vérifier cela, créature est tiré du mot grec qui signifie une nouvelle création. Oh, de même qu'ici, vous êtes une créature née par le sexe, vous êtes alors une nouvelle création, née du ciel. Dans la nouvelle création de Dieu, un homme nouveau. Une nouvelle création à la naissance. Mais il faut que ce soit une naissance, de même que la naissance naturelle est nécessaire. La naissance spirituelle est tout aussi nécessaire que la naissance naturelle. Un jeune couple pourrait se marier et dire « Nous appellerons notre premier petit garçon Jean ». S'il ne naît jamais, Jean ne sera jamais ici. C'est tout. De même, vous pourriez, peu importe combien d'idées mythiques vous pourriez vous faire sur le ciel, combien c'est glorieux. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'y serez pas. C'est tout, voyez. Il faut qu'il en soit ainsi, parce qu'il faut qu'il y ait une naissance. Dieu a établi ses lois et tout fonctionne selon ses lois, voyez. Maintenant, dans ce que nous verrons, il y en reste des Juifs qui sera sauvé. Et nous allons voir cela en premier, parce que cela positionne. Eh bien, il y a toujours 3 catégories de gens en tout temps, constamment. Et gardez, ayez cela à l'esprit. Il s'agit du croyant, du soi-disant croyant et de l'incroyant. Ces trois-là, il y a le juif qui a été rejeté pour que nous ayons une possibilité. Il y a une église tiède et il y a une église remplie de l'esprit. Une fois, Charlie Bohannon était le président le directeur de l'entreprise de services publics pour les régions du Sud quand je travaillais pour eux. J'étudiais simplement les Écritures à ce moment-là. Je n'étais qu'un jeune homme. Et il a dit, « Billy, quiconque !» Il a dit, « Jean a dû manger du piment rouge et faire un cauchemar là-bas, sur l'île de Patmos. » J'ai dit, « Monsieur Bohannon, vous n'auriez pas dû dire cela. » C'était mon patron, mon superviseur. Il a dit, « Eh bien, qui donc pourrait comprendre ça ?» J'ai dit, « C'est compris. Ce sera compris quand le Saint-Esprit sera disposé à le révéler. » C'est vrai. Et il a dit, « Oh là là !» Il a dit, « J'ai essayé de le lire. » Et mon pasteur a aussi essayé de le lire. A-t-il dit, « Nous nous sommes retrouvés en mauvaise posture. » Il a dit, « Nous avions là l'épouse qui se tenait sur le mont Sinaï. » Voyez, et il a dit, « Et puis nous avions l'épouse en face du dragon qui lançait de l'eau de sa bouche pour faire la guerre au reste de la postérité de la femme. Nous avions l'épouse dans le ciel, les trois en même temps. » J'ai dit, « Ça, c'est quand on n'a pas l'entendement spirituel. » Voyez, il a dit, eh bien, les voilà tous en, les trois en même temps. J'ai dit, oui monsieur, mais ce n'est pas ainsi qu'ils ont été placés. Voyez-vous, vous avez appelé les 144 000 l'épouse. Ce qui n'est pas le cas, c'était des juifs, et celui contre qui le dragon a lancé de l'eau de sa bouche pour lui faire la guerre, c'était le reste, ceux qui étaient restés de la postérité de la femme, qui gardaient les commandements et qui avaient le témoignage de Jésus. L'épouse était dans la gloire, voyez. Les 144 000 dans Apocalypse, chapitre 14, se tenaient là, sur le mont Sinaï. C'est tout à fait vrai. Ils avaient le nom de leur père écrit sur leur front. C'est tout à fait vrai. Les Juifs, le reste des Juifs. Et puis, voici venir le dragon, la hiérarchie de Rome. En fait, l'Église elle-même avait été enlevée. Elle était dans la gloire, au souper des noces, pendant 3 ans et demi. Puis le dragon, voyez, le dragon, c'est toujours Rome, le dragon rouge. Pour que vous en soyez bien certains, dans Apocalypse 12, le dragon était irrité contre la femme qui devait enfanter l'enfant mâle, qui devait paître toutes les nations avec une verge de fer. Et il a lancé de l'eau de sa bouche, et, ou pour faire la guerre au reste de la postérité. Mais premièrement, ce dragon rouge, il s'était tenu devant cette femme. Dès que la femme devait enfanter cet enfant, il devait dévorer cet enfant, dès qu'il l'aurait fait naître. Maintenant, qui se tenait devant l'Église israélite, la femme, Israël, pour dévorer son enfant, Jésus, dès qu'il naîtrait? Rome. Hérode a donné l'ordre à tout le monde de tuer tout enfant âgé de 2 ans et moins. Un massacre a été entrepris pour tuer tous les enfants hébreux d'un bout à l'autre du pays. Exactement la même chose que Pharaon avait fait pour attraper Moïse, qui était un type de Jésus. Il avait massacré tous les enfants et l'avait manqué. Oh, Dieu sait comment les cacher. Oh, n'êtes-vous pas heureux d'être caché? Oh, un abri. La Bible dit, en effet, vous devez vous regarder comme mort et votre vie en Christ, cachée en Christ et scellée par le Saint-Esprit. Le diable ne pourrait pas vous trouver, même s'il le fallait. Il ne le pourrait tout simplement pas. Voyez-vous, vous êtes cachés en Christ. Regardez-vous comme mort et vos vies sont cachées en Christ, cachées en Dieu par Christ et scellées par le Saint-Esprit. Ainsi donc, ce reste, c'était la Vierge endormie. C'est contre elle qu'il a lancé de l'eau de sa bouche pour faire la guerre au reste de la postérité de la femme. Or, un reste, qu'est-ce que c'est? Bon, là, il faut faire concorder ces types maintenant. Il y a une église qui est l'église naturelle. Il me faut peut-être dessiner cela ici pour que ce soit un peu plus clair. Bon, frère Neville, si j'empiète sur ton temps, pardonne-moi s'il te plaît. Maintenant, souvenez-vous-en, il y a le quoi? L'incroyant. Je vais appeler celui-ci IC. L'incroyant. C'est donc le pécheur. Et en voici un autre. C'est un formaliste. Je vais l'appeler F.O., l'église formaliste. Et puis, en voici un autre, qui est l'église sauvée. S.A., l'église sauvée. Maintenant, ayez les trois à l'esprit en tout temps. Or, dans cette église sauvée, il y a 2 catégories. Dans cette église qui est juste ici et juste ici, qui avait été présentée en type par Christ. L'une d'elles était une vierge endormie et l'autre avait de l'huile dans la lampe. Eh bien, vous tous, combien se souviennent de cette histoire? Nous allons y arriver dans un instant. Mais avant de le faire, nous allons d'abord voir les 144 000 d'Apocalypse 7, afin que cela soit vraiment compris. Vous devez donc avoir ceci à l'esprit. Et vous qui prenez des notes, Apocalypse 7, prenons un peu notre temps. Et vous n'allez pas baptiser après la réunion de ce matin. Très bien. Je vais essayer de poser ma montre ici et de surveiller l'heure pour qu'on puisse sortir. Là, nous avons jusqu'à près de 2 heures. Que le Seigneur nous aide à faire cette étude. Après cela, or nous, le chapitre 6 traite du cheval blanc. Là, c'est le Saint-Esprit qui part en vainqueur et pour vaincre. Puis vient le cheval de couleur pâle, la mort. et le séjour des morts l'accompagne. Et il y a aussi chacun de ses cavaliers qui monte ses chevaux. Maintenant, après cela, après cette grande destruction, le premier à sortir, c'est le Saint-Esprit qui parcourt toute la terre, en vainqueur et pour vaincre. Puis vient celui du temps de la grande famine, que t'on vend une mesure de blé pour un denier, deux mesures d'orge pour un denier, et ainsi de suite. Mais ne fais point de mal à mon huile et à mon vin, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ouvre ses seaux. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents, afin qu'ils ne soufflent point sur la terre, ni sur la mer, ou aucun arbre. Et je vis un autre ange qui descendait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été faire du mal, il avait été donné de faire du mal à la mer et à la terre. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer ou l'arbre, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Maintenant, souvenez-vous, les serviteurs ont toujours été, ce sont les Juifs qui sont les serviteurs de Dieu. Abraham était son serviteur. Les gens des nations ne sont pas des serviteurs. C'est une épouse, c'est un fils. Voici le fils, c'est l'Église. Les Juifs sont les serviteurs. Oh, si vous pouviez juste, si seulement nous avions le temps de passer ces mots au peigne fin. Je fais bien des fois là-bas, dans la pièce. Je passe en revue toutes les références et je les prends en note. Les Juifs sont des serviteurs. Si je me tiens ici et que je consacre tout mon temps aux serviteurs, je ne traiterai pas les autres points, vous voyez. Alors, souvenez-vous, suivez ça d'un bout à l'autre de la Bible et vous verrez que le Juif, c'est le serviteur de Dieu. Quel beau parallèle nous pourrions faire ici si nous voulons bien nous rapporter à Ézéchiel 4. Nous y verrons qu'il a dit, « Pareille chose est-elle déjà arrivée ?» Il a levé les yeux vers les hautes murailles et à ce moment-là, il a vu les abominations qui se commettaient dans la ville. Et là sont sortis, se sont avancés quatre hommes, chacun son instrument de destruction à la main. Et ils se sont avancés pour détruire tout ce qui se trouvait dans la ville de Jérusalem. Et avant qu'ils ne commencent à tout détruire, ils les ont retenus, les ont arrêtés, car il y en avait un autre qui est venu vêtu de blond, qui portait une écritoire. Combien ont déjà eu ça? À la ceinture, Ézéchiel 4. Puis, il avait à la ceinture cette écritoire. Il était vêtu de blond. Il a dit, « N'allez pas dans la ville, ne détruisez rien, tant que vous n'aurez pas premièrement marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. » Il s'est avancé et il a scellé. Il a même dit de sceller jusqu'aux petits-enfants et tout. Par la suite, de ceux qui avaient les instruments de destruction, quatre se sont avancés. Ils y sont allés et ont démoli absolument tout, sans aucune pitié. Ils ont massacré les hommes, les femmes, les enfants, tous ceux qui n'avaient pas le sceau de ce premier homme, qui portait une écritoire et qui appliquait le sceau et le grand. Bon, ça s'est produit aux jours qui ont suivi le départ de notre Seigneur. Comme il les avait prévenus dans Matthieu 24 de ceci, quand vous verrez Jérusalem investie par des armées, ne descendez pas du toit, ou que celui qui est dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau, mais fuyez en Judée. Joseph en donne le récit. Il décrit leur fuite. Ceux qui en avaient échappé, ce sont seulement ceux qui avaient pris en considération les paroles du Seigneur Jésus. Et lorsqu'ils ont vu les armées les encercler, avec Titus, en l'an 96, après Jésus-Christ, lorsqu'ils ont vu Titus encercler les murs de Jérusalem, et qu'il les y a tous enfermés, ils ont mangé l'herbe des arbres. Ils ont mangé l'écorce des arbres. Et ils ont mangé l'herbe au sol. Ils ont carrément fait cuire les enfants les uns des autres pour manger. Ils les ont laissés mourir de faim. Ils les ont simplement confinés à l'intérieur. Et finalement, ils se sont rués à l'intérieur et les ont massacrés, au point que le sang a coulé par la porte, comme si une piscine se vidait, des ruisseaux de sang qui coulaient par la porte. Ils avaient incendié le temple, démoli les murs, et cela subsiste jusqu'à ce jour. Et la mosquée musulmane d'Omar a été érigée à l'endroit où se trouvait le temple. Et Jésus en a parlé dans Matthieu 24, quand il a dit, « Lorsque vous verrez l'abomination qui cause la désolation établie en lieu saint, ce dont le prophète Daniel a parlé, ce qu'il en a dit, puis il est dit, entre parenthèses, que celui qui lit comprenne. » Voyez, lorsque vous verrez cette abomination, la souillure de la mosquée musulmane d'Omar, établie à l'endroit où se trouvait le lieu saint autrefois. Et aujourd'hui, la mosquée musulmane est établie exactement là où se trouvait le lieu saint, en plein sur le site du temple. La mosquée musulmane y est établie, comme Jésus a dit qu'elle le serait. Oui, comme Daniel a dit qu'elle le serait, et que Jésus a confirmé qu'elle le serait. Observez ces prophètes, et Dieu là, prédire ces choses. Frère, cela devrait nous faire dresser les poils sur la nuque, de savoir que nous sommes au temps de la fin. Nous sommes à la fin. Il ne reste plus rien. Toutes ces choses qui arrivent exactement comme il l'a dit, eh bien, cela devrait nous encourager, nous amener à nous préparer. Il a dit, Jésus nous a prévenus. Il a dit, quand vous verrez ces choses arriver, comme celles dont nous parlons, il a dit, levez la tête, votre rédemption est proche. Et à quoi cela nous servirait-il de gagner le monde entier? Nous le perdrons de toute façon. Nous ne pouvons pas gagner de cette façon. Il n'y a qu'une seule façon de gagner, c'est par Christ. Acceptez Christ, alors vous êtes certain de gagner. Vous devez partir d'ici. Vous pourriez partir avant la fin de cette réunion. Vous pourriez partir avant le coucher du soleil ce soir. Vous pourriez partir avant le lever du soleil demain matin. Avant dimanche prochain, vous pourriez être parti. Nous tous, nous ne savons pas quand nous partirons. Mais vous savez que vous devez partir. Alors, n'est-ce pas insensé de remettre ça à plus tard? Vous marchez, vous flirtez avec la mort. C'est comme la piste de luge. Autrefois, on s'asseyait sur la luge et on la faisait tourner autour de quelque chose pour voir à quel point on pourrait s'en approcher. Et tout à coup, avant de s'en rendre compte, on se mettait à dévaler la pente. Et c'est exactement ce que vous faites. Vous ne faites que glisser là autour. Vous ne savez pas à quel moment quelque chose vous nuira et vous serez parti. Un arrêt cardiaque, un accident d'automobile, n'importe quoi peut vous arriver et vous mourrez. Et là, votre destination éternelle se trouve juste devant vous. Réfléchissez-y, mes amis. Bon, lorsque vous verrez l'abomination qui cause la désolation établie en lieu saint. Maintenant, là, au jour de la venue de Titus, après le départ de Jésus, cet homme qui portait une écritoire à la ceinture, c'était le Saint-Esprit. Il est allé d'un bout à l'autre de Jérusalem et a fait une marque sur les gens. Et là, membre d'Église, je veux vous faire remarquer quelque chose. Vous prétendez avoir le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il a dit, « Ne scelle que ceux qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations qui se commettent dans la ville. » Or, où peut-on trouver quelqu'un qui soit si accablé par l'état du monde et sa condition actuelle? Eh bien, je suis méthodiste, je suis baptiste, presbytérien. Alors, qu'est-ce que ça change? Disent-ils. Oh, ils n'ont pas ce fardeau constant pour les perdus, cette douceur. Ne laissez jamais rien s'élever et faire entrer l'amertume dans votre âme. Peu importe à quel point on vous maltraite ou quoi que ce soit d'autre, ne le faites jamais. Ne soyez pas coupable de laisser cette chose s'ancrer dans votre âme. Cela attristera le Saint-Esprit et l'éloignera de vous, certainement. Je me souviens d'avoir dit quelque chose de faux il y a 2 ou 3 ans. C'était des avocats qui m'avaient appelé et je suis sorti. Ma femme est assise là. J'avais ma tête envoyée. J'avais l'impression de perdre la tête. Et je suis allé dans la cour arrière. Ils avaient téléphoné et avaient dit, « Dites-lui de venir cet après-midi. » Et mesdames avaient dit, « Ce sont les avocats. » Je me suis éclipsé par la porte, à l'extérieur. Et j'ai dit, « Dis-lui que je ne suis pas là. » Elle a dit, « Bill. » Et j'ai dit, « Dis-lui que je ne suis pas ici en ce moment. » Et je suis sorti. Quand je suis arrivé dehors, je me suis senti très mal à l'aise. Et je suis revenu. Et elle lui a dit, « J'ai vu que ça l'avait blessé. Je suis allé prier pour... » Il y a un homme qui était venu ici et dont le petit bébé était malade. Et à peine avais-je posé la main sur ce bébé pour prier pour lui, que quelque chose m'a dit, « Tu es un hypocrite. » Vous voyez, tu es conscient de ce que tu as fait. Et j'ai dit, « Monsieur, je ne suis pas digne de prier pour votre bébé. » Vous voyez, le Saint-Esprit est attristé en moi et ça ne servira à rien que je pose les mains sur le bébé. Attendez que j'aille mettre quelque chose en ordre. Je suis parti pour aller parler à mon avocat. Je lui ai dit, j'ai mal agi. Il a dit, je croyais que vous n'étiez pas là. J'ai dit, non. J'ai dit, j'ai fait dire à ma femme quelque chose de faux. J'ai dit, je regrette. Je ne voulais pas faire ça. J'ai dit, voulez-vous me pardonner? Et j'ai demandé à ma femme de me pardonner. Puis, je suis retourné à Green's Mill. C'était en juillet. Oh, c'était vraiment tranquille dans les bois. J'ai passé tout l'après-midi dans la grotte à prier. Puis, je suis allé là, sur le rocher, où je pouvais voir au loin, par-delà les collines. C'était si beau. Les feuilles et tout, tout était calme. Il était environ 5 ou 6 heures de l'après-midi. En été, rien ne bougeait. C'était très calme. Une journée chaude. J'ai dit, Père Céleste, Moïse, une fois, tu lui as dit de se tenir sur le rocher et tu es passé près de lui. J'ai dit, si tu m'as pardonné le mal que j'ai fait, pourrais-tu passer de nouveau et me laisser te voir? Et juste à ma gauche, sur le flanc de la colline, un petit tourbillon s'est mis à souffler, tout doucement, dans les feuilles. C'est venu passer à côté de moi, comme ça, et cela a continué dans les bois. J'ai pleuré comme un bébé. Je suis reparti de là et j'ai dit, « Je sais que mon péché m'est pardonné maintenant. » Voyez ? Vous voyez, ne gardez jamais de racines d'amertume. Voyez ? Peu importe ce que quiconque vous fait, que ayez simplement Dieu à l'intérieur, et cela tiendra tout mal loin de vous. Maintenant, ces chrétiens qui avaient été avertis par Christ, eh bien, remarquez que c'est un type de ce dont nous parlons ce matin. Ces chrétiens qui avaient pris en considération cet avertissement étaient sortis de Jérusalem parce qu'ils savaient que c'était sur le point d'arriver. Maintenant, observez les membres d'Église, le type de ceux qui allaient à l'Église, ceux qui se contentaient de se joindre à l'Église. Ils ont tous dit, « Eh bien, les armées arrivent, la guerre arrive, allons maintenant prier dans la maison du Seigneur. » Mais il était trop tard. Ça n'a servi à rien du tout. Voyez ? Mais les disciples, quant à eux, gardaient les yeux fixés sur l'avertissement, puisqu'ils savaient ce que Jésus avait dit, et ils se sont échappés. Les historiens disent, ceux qu'on taxait de cannibales, disaient-ils, mangeaient le corps de cet homme appelé Jésus, celui qui les guérissait autrefois. Voyez, ils prenaient la communion. Ils ne savaient pas ce qu'il en était, voyez, parce qu'il était un homme charnel. Et non un croyant, il était simplement un historien. Et ils ont échappé à la colère qui était venue sur la terre. Maintenant, vous voyez, tout Jérusalem avait été détruit. Or ça, donc, il s'agit là d'un parallèle parfait. Apocalypse 7. Maintenant, regardez bien. Depuis l'époque où Titus a assiégé Jérusalem, dans le monde entier, il n'y a pas eu un temps dans l'histoire où le monde entier est entré en guerre avant 1914. Maintenant, écoutez bien. Eh bien, c'est là que M. Rutherford est parti du mauvais pied, j'en suis sûr. Exactement là. Maintenant, observez. Après cela, je vis un autre ange de 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Debout comme ceci, aux 4 coins de la terre. Il retenait les 4 vents de la terre. Bon, tout le monde sait ce que les vents signifient dans la Bible. Les vents, ce sont des guerres, des conflits. Le diable est le puissant, le prince de l'air, vous voyez. Et il retenait les 4 vents, afin qu'il ne souffle point sur la terre ou la mer. Et un autre ange qui descendait du côté du soleil levant, d'où Jésus viendra, et qui tenait le sceau du Dieu vivant dans sa paume de main, dans sa main, il cria d'une voix forte aux 4 anges qui étaient chargés de détruire le monde, disant qu'il avait été donné de faire du mal à la mer et à la terre, et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni arbre, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Maintenant, le temps ne s'applique pas à Dieu. Il est l'éternité. Nous employons le temps comme unité de mesure. La seule chose que nous connaissons, ce sont les mètres, les carrés, les kilomètres, et ainsi de suite. Dieu est l'éternité. Il n'a ni commencement, ni fin. Vous voyez, il est éternel. Donc, en 1914, le monde entier est entré en guerre contre l'Allemagne, pour une guerre mondiale. C'est vrai, le monde entier dans une guerre mondiale. Et l'avez-vous remarqué ? C'était vraiment une chose étrange. Je veux que mon bon ami, qui est assis ici, le père de Frère Wood, comprenne bien ceci. Voyez, ils étaient, c'est un témoin de Jéhovah converti, vous voyez. Et donc ceci, ils étaient tous entrés en guerre. Vous vous en souvenez bien, en 1914. Maintenant, n'est-il pas étrange? Là, dans le déclin de la guerre mondiale, j'ai les différents volumes. Dans le volume 2, à peu près à la page 44, que, jusqu'à ce jour, ils ne savent pas qui a arrêté cette guerre. Kaiser Wilhelm a déclaré qu'il n'avait jamais ordonné pareille chose. Mais tout d'un coup, elle s'est arrêtée et personne ne sait pourquoi. Ils combattaient et voici venir le haut front et tous se sont retrouvés C'était fini. La guerre était terminée. Ils avaient déjà signé un traité de paix, sans savoir ce qui s'était passé. Là, bien sûr, il faudrait un ou deux jours pour bien expliquer tout ça. Ils ne le savaient pas. Mais coupons court et parlons des grandes lignes. C'est Dieu qui a arrêté cela pour accomplir sa parole. C'est cet ange qui a arrêté cela. Ces anges étaient sortis avec leur instrument de destruction. Pourquoi ? Pour détruire le monde entier. Et un autre ange a dit, « Attendez un instant, ne faites pas ça. Nous devons sceller le front des serviteurs de notre Dieu, premièrement. » C'était juste au début de la Pentecôte, en 1906, 1914, quelque part par là. Combien d'entre vous le savent ? Y a-t-il ici un vieux de la vieille du mouvement pentecôtiste qui se souvient de cette époque-là? Certainement, quand cela, au tout début, que le Saint-Esprit avait commencé à descendre et que les gens avaient commencé à recevoir le Saint-Esprit, à parler en langue et à prier pour les malades, et ainsi de suite. Quand cela commençait à arriver, ou juste entre ces deux âges-ci, juste au moment où cela avait commencé, c'était une véritable Église. Ensuite, les pentecôtistes se sont mis à former des dénominations, les assemblées de Dieu, l'Église de Dieu, et ainsi de suite. Et ils se sont retrouvés dans des ismes, comme c'est le cas maintenant. Donc c'est « Nous sommes à la fin de l'âge ». Vous voyez, tout tend vers la fin, tout se dirige ainsi vers la fin. Maintenant, en ce qui concerne ceux-ci, les quatre, remarquez, elle s'est arrêtée le 11 novembre. À 11h du matin, le 11e mois de l'année, le 11e jour du mois est la 11e heure du jour. Vous souvenez-vous de ce que Jésus a dit à ce sujet? Une fois, quelqu'un est allé travailler à la vigne et il a reçu un denier. Et les suivants y sont allés. C'étaient les ouvriers de la 11e heure. Pas vrai? Les voilà, les ouvriers de la 11e heure. Ils ont été retenus. Maintenant, il est temps pour eux d'entrer. On est en train de rassembler ces Juifs pour former une nation. Ils avaient été dispersés partout dans le monde, tout là-bas en Iran et dans différents endroits où ils n'ont jamais su que Jésus était sur la terre. Ils n'ont jamais rien su du Nouveau Testament et tout ça. Et maintenant, vous pouvez regarder dans le magazine Look, Life et les autres, dans lesquels les photos de leur retour ont été publiées. Jésus n'a-t-il pas dit « Quand vous verrez le figuier bourgeonner ?» Les Juifs ont toujours été le figuier. Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Et maintenant, ils sont déjà de retour. Ils forment déjà une nation. Ils ont déjà leur propre monnaie et leur propre drapeau et tout. Ils sont reconnus à l'ONU. Ils sont une nation. Elle est établie. Elle est prête. Alors, elle est prête. Pourquoi? Le scellement des 144 000. Eh bien, nous verrons cela dans un instant. D'Israël, les Juifs, non pas cette bande-là à Wall Street qui a toujours triché, volé et tout. Je parle des véritables Juifs, des Juifs intègres, les vrais Juifs qui observent les commandements de Dieu là-bas. Donc, les véritables Juifs sont de nouveau en train de se rassembler en Palestine. Et c'est exactement ce qu'a dit le prophète, car Ismaël et Isaac ont toujours été en guerre l'un contre l'autre, toujours en train de se combattre. C'est prédit qu'ils seraient là-bas dans les derniers jours. Et ils y sont. Ismaël juste ici, et là, à environ un pâté de maison plus loin, c'est Isaac. Et les deux, Mahométans et Juifs, se battent l'un contre l'autre dans un « no man's land ». Maintenant, pour voir si ce message que nous avons se rapporte à cela ou pas, à l'heure même où il était approuvé qu'Israël soit une nation, c'était à la même heure, au même jour, au même mois et tout, où j'étais à Green's Mill, Indiana, quand cet ange m'est apparu et m'a envoyé dans le champ de mission avec ceci. Après qu'il m'avait rencontré à la rivière, et m'avait dit ce qui allait arriver, il m'a ensuite donné la commission 11 ans plus tard, au même moment où il était approuvé qu'Israël soit une nation. Tout ça va ensemble. Voyez, l'ange du Seigneur est maintenant sur la terre. Voyez, il se déplace ça et là. Il prépare tout pour la venue du Seigneur. Et ce sont les mêmes anges qui avaient entendu le cri du péché de Sodome quand ils y sont descendus et qu'ils ont trouvé. Ils avaient dit, nous sommes descendus pour voir si ces choses dont le bruit est venu jusqu'à nous sont vraies. Vous en souvenez-vous? Et un ange est descendu. L'un d'eux est resté avec Abraham, l'élu. Sodome était ici, en bas, et Lot était dans Sodome. Deux anges sont allés là-bas, leur ont prêché, et ont fait sortir ce tout petit groupe, les vierges endormies. Voyez, très bien. Mais l'un des anges était resté avec Abraham. Ces anges ont prêché ici, en bas, un Billy Graham moderne et tout. Ils les ont fait sortir. Mais l'ange qui était resté avec Abraham avait le dos tourné à la tente. Et il a dit, « Abraham, où est ta femme, Sarah ?» Comment savait-il qu'elle était mariée, qu'il était marié? Comment savait-il qu'il avait une femme? Et comment connaissait-il son nom, que son nom était Sarah? Il a dit, « Elle est dans la tente, derrière toi. » Il a dit, « Eh bien, je t'ai fait une promesse. Je, vous voyez donc qui était cet ange. Je t'ai fait une promesse. Je te visiterai à la période de la vie. Sarah aura cet enfant. » Et Sarah, qui était dans la tente derrière lui, a ri en elle-même. Et l'ange, qui avait le dos tourné, a dit, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Vous voyez le signe qu'il a donné à l'église élue? Vous voyez le signe qu'ils ont reçu à Sodome? Voilà vos trois catégories qui reviennent de nouveau. Une fois de plus, nous revenons à elles. Nous avons ces grands ministres là-bas qui parcourent le monde. Après que Billy Graham a reçu le Saint-Esprit, il ne pouvait pas s'associer ici. Son champ, c'est là-bas. Et ça, il le reconnaît. Dieu le maintient là-bas. Voyez, avec cette prédication intellectuelle, ce qu'il entend, il essaie de faire sortir de Sodome. Il essaie de faire sortir cette vierge endormie ou de lui apporter la grâce. Voyez. Mais ici, c'était Abraham et sa catégorie. Et Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Voyez, ces anges seront ici sur la terre à faire la même chose. Voyez, c'est pour ça que Billy va vers les baptistes et ainsi de suite. Il doit le faire. Voyez, Jack Schuller et tous ces autres grands hommes qui vont, les revivalistes, ils doivent le faire. Parce qu'ils sont en train de les faire sortir. Ils n'ont jamais fait du miracle là-bas. Juste un peu, comme frapper des gens d'aveuglement. Mais la prédication de l'Évangile les frappe d'aveuglement. Voyez, c'est ce que dit la Bible. Mais cet homme-ci a accompli ces signes surnaturels, devant Abraham et les siens, qui sont l'Église élue. Eh bien, en 1914, le monde est entré en guerre. Et depuis lors, il n'y a jamais eu de paix. Ils sont sans cesse ballottés. Et en ce moment, ils sont en train de faire exactement la même chose. Et que faisaient-ils? Ils retenaient. Oh Dieu, sois miséricordieux. Ils retenaient cette grande chose que j'ai vue dans la vision, la chose en entier, et menée à la destruction. Ils retenaient la puissance atomique. Ils retenaient les guerres, afin qu'ils ne se détruisent pas eux-mêmes avant la venue de cette chose qui les détruira, jusqu'à ce qu'Israël soit revenu et se soit rassemblé. Après quoi, le message ira en Israël, et ils seront scellés du sceau du Saint-Esprit. Voyez, après que les gens des nations ont été appelés à sortir, les gens seront appelés à sortir à cause de son nom. Et c'est dans cet âge ici qu'ils sont appelés. Après cela, Israël ne reçoit qu'un message qui dure 3 ans et demi. C'est ce qu'a dit Daniel. Il a dit qu'il y avait 7 ans qui leur ont été prophétisés. C'est ce qui reste encore pour le salut des Juifs. Il a dit, le Messie, le Prince, c'est-à-dire Christ, viendra prophétiser au milieu de ces 70 ans ou de ces 7 ans. Il sera retranché. Jésus a prêché 3 ans et demi et il a été retranché. Le sacrifice perpétuel a été enlevé, comme Daniel l'avait dit. Très bien. Puis il y a eu une période accordée aux gens des nations, jusqu'à cet âge-ci. Après cela, il reste encore 3 ans et demi pour les Juifs. Maintenant, si nous prenons Apocalypse 11, nous verrons exactement là, à la fin. L'Église n'apparaît plus jusqu'au chapitre 19 de l'Apocalypse. Mais à la fin de cela, Élie et Moïse reviennent pour prêcher aux Juifs. Il s'agit de deux hommes qui sont loin de cet esprit-là, ou c'est peut-être eux-mêmes. Ils ne sont jamais morts. Alors, on les tuera, et leurs cadavres seront étendus sur la place appelée Sodome, là même où notre Seigneur a été crucifié, Jérusalem. Et après 3 jours, eh bien, la vie, l'esprit de vie, est entré en eux, et ils se sont mis debout. Ils ont ressuscité. Puis, environ un tiers de la terre a été réduit en morceaux à ce moment-là. Ils ont accompli des miracles et des signes parmi les Juifs. Maintenant, voici les Juifs à qui ils viennent prêcher. Le monde ne peut, les gens ne peuvent pas se faire exploser les uns les autres ou s'entretuer, ou la destruction ne peut pas venir tant que ces Juifs ne sont pas de retour dans ce lieu-là. Voici la Bible, c'est ce qu'elle dit. Il a vu les 4 anges. Et regardez ce qu'il leur faut recevoir. Il faut qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. exactement comme ils l'ont fait. Si l'homme qui portait l'écritoire était le Saint-Esprit, ça, tous les lecteurs de la Bible savent. Alors, c'est bien le même ange qui revient avec le Saint-Esprit, le sceau du Dieu vivant. Éphésiens 4:30, le Saint-Esprit de Dieu, scellé jusqu'au jour de votre rédemption. Et là, ils ne peuvent rien faire avant le retour de ces Juifs. Et il y a à peine quelques semaines, ils ont réuni toutes les conditions et qu'ils sont devenus membres de l'ONU. Tout est prêt. Nous sommes à la fin. Tout est scellé maintenant. Bon, regardez maintenant. Pour vous prouver qu'il s'agit des Juifs, là, je vais prendre le « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ou à aucun arbre, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Maintenant, pour vous prouver que cette révélation est juste, regardez ici, au verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux marqués du sceau, 144 000, tous des tribus des fils d'Israël. Des Israélites, où sont-ils? Ils viennent tout juste de se rassembler. Ils sont là-bas, prêts, et attendent le moment de leur scellement. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. D'Azer, 12 000. De Nephtali, 12 000. Et ainsi de suite. Siméon, et Ole, et jusqu'à Benjamin, les 12 tribus. Et 12 fois 12, ça fait 144 000. Voyez, le voilà, c'est... Bon, si vous regardez un instant ici, au chapitre 14, vous verrez. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur montagne du Sinaï, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. La montagne du Sinaï. L'agneau était revenu de l'enlèvement. Il était revenu, comme nous l'avons vu l'autre soir, au sujet de Joseph, qui avait fait sortir tous les gens des nations lorsqu'il était avec ses frères. Il leur a dit, « Je suis Joseph, votre frère. » Et là, ils ont eu peur. Vous souvenez-vous de ce que nous avons vu, là, dans l'âge de l'Église? Quand il reviendrait, ceux-là même qui lui avaient percé les mains demanderont, « D'où te viennent ces marques de clous ?» Il dira, « Des mains de mes amis. » Et ils se lamenteront. Chaque famille se séparera de l'autre, puis elles pleureront, pleureront et pleureront pour avoir fait ce mal. Leur propre Messie, Dieu lui-même. Et il leur dira la même chose qu'il a dit que Joseph a dit à Israël, quand il leur a dit, « Ne soyez pas fâchés contre vous-même, car Dieu a fait cela pour sauver des vies. » Et Dieu, la Bible dit que Dieu a aveuglé les yeux des Juifs afin que les gens des nations aient une possibilité, nous-mêmes, et qu'ils se choisissent un peuple à cause de son nom, une épouse parmi les gens des nations. Oh, c'est merveilleux, pas vrai? Voilà. Voilà vos 140. Maintenant, si vous voulez voir où l'épouse apparaît après cela, pour montrer que les 144 000 ne sont pas l'épouse, continuez simplement à lire à partir du chapitre 8 et les chapitres suivants. Ou, oui, le chapitre 8, ou je veux dire le verset 8, à partir du chapitre 7. Commençons au verset 9, puisque le verset 8, c'est le scellement des 12 000 de Benjamin. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Voici venir l'épouse de toute nation, toute tribu, tout peuple et de toute langue. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et il criait d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient tout autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, « Amen, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance, force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. » Amen. Et l'un des vieillards qui prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans le temple. » Voyez ? Que fait votre femme? Elle vous sert à la maison. Vous vous asseyez, elle vous donne à manger, elle prépare les vêtements. Voyez, elle vous sert jour et nuit dans la maison. Voyez, et celle-ci, ceux qui viennent de toutes les nations, ces gens des nations, ils sont l'épouse. Ils sont devant le trône de Dieu, avec lui, jour et nuit. Est-ce que vous vous rappelez tous ce que nous avons dit hier soir quand nous parlions de cela? Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ou aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira dans les sources d'eau de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Voilà donc vos 144 000, Israël, qui attendent la venue du Seigneur, et qui ne peuvent pas entrer tant que ce ne sera pas d'abord terminé pour les gens des nations. Il faut que ce soit terminé. À présent, j'aimerais dire un petit quelque chose de personnel, et j'ai confiance que vous le comprendrez. Quand Levi Petrus de Stockholm, en Suède, le surveillant général, le chef des églises philadelphiennes, a envoyé 1 million de Bibles à ces Juifs, des petits testaments. J'en ai une, un petit souvenir de sa part. Les Juifs lisent toujours de l'arrière vers l'avant. En effet, vous savez comment est leur langue. Après avoir lu ces livres, ils ont dit, « Eh bien, si ce Jésus est le Messie, s'il est mort et que son esprit est revenu sous la forme de l'esprit, il accomplisse sous nos yeux le signe du prophète. » Et nous le croirons. Quel scénario parfait! Je me suis dit, Seigneur, le moment est arrivé. C'est le moment maintenant. Le voici. Alors, j'ai sauté dans un avion en compagnie de Billy et Lois. Nous avons décollé. J'allais en Inde et je me suis dit, eh bien, sur le chemin du retour, je ferai un petit crochet par là pour apporter le message aux Juifs, de sorte que là-bas, ils se demanderont, est-ce vrai? Les Juifs croient toujours leurs prophètes. Ça, nous le savons tous. Or, Dieu leur a dit que le Messie serait un prophète. Et ils croient leurs prophètes. Et Dieu a dit, s'il y a parmi vous quelqu'un qui est un prophète, un voyant, et s'il, je lui parlerai par des visions, et ainsi de suite. Et si ce qu'il dit s'accomplit, alors écoutez-le, car je suis avec lui. Voyez? Mais si ça ne s'accomplit pas, alors n'ayez rien à faire avec ce prophète, parce que je ne suis pas avec lui. Mais si ce qu'il dit s'accomplit, alors écoutez-le, parce que je suis avec lui. Et les Juifs savent cela. Et je me suis dit, oh là là, ne serait-ce pas merveilleux? Je vais réunir 4 ou 5 000 d'entre eux et me tenir là, leur faire lire la Bible et dire, s'il s'agit du Messie, alors voyons-le, accomplir le signe du prophète. Je me suis dit, quel terrain favorable ce sera. J'avais mon billet en main, juste une trentaine de minutes avant l'appel du vol de la ligne aérienne arabe. Alors, je me trouvais là-bas, au Caire, en Égypte, et je me suis dit, gloire à Dieu. Dans 2 heures, les Juifs recevront la même chose qu'ils avaient reçue à la Pentecôte. C'est sûr et certain. Je me suis dit, quand j'arriverai là-bas, je leur dirai, choisissez parmi vous un groupe d'hommes. Faites-les venir ici, et vous verrez s'il est toujours le Messie. Vous voyez? Puis je leur dirai, eh bien, pour les mêmes raisons qui ont amené vos ancêtres à rejeter ce Messie, recevez-le. Vous levez les mains et vous recevrez le Saint-Esprit à l'instant même. Et ensuite, ils évangéliseront le monde, dans leur région du monde, une fois qu'ils, quand ils l'auront reçu. Allez vers les conducteurs, ne touchez le noyau principal, les conducteurs, que ce soit eux qui commencent. Et quelque chose m'a frappé et a dit, n'y va pas maintenant, car ce n'est pas encore le moment. Oui, ce n'est pas encore fini pour les gens des nations, vous voyez, leur temps n'est pas terminé. Oh, me suis-je dit, c'est juste moi qui a pensé cela. J'ai donc continué, et c'est devenu si intense que je ne pouvais plus le supporter. Je me suis retiré derrière un hangar, j'ai courbé la tête et j'ai dit, « Oh Père, est-ce toi qui me parles ?» Il a dit, « Ne va pas en Israël maintenant, l'heure n'est pas encore venue. » Je suis retourné à l'intérieur et j'ai changé mon billet pour une autre destination. Je suis parti dans une autre direction, voyez, parce que l'heure n'est pas encore venue. Mais un de ces jours, le message ira en Israël, et cela produira. Dieu leur enverra Moïse et Élie d'Apocalypse 11, et ils accompliront des miracles et des prodiges, ainsi que le signe de Jéhovah. À ce moment-là, ce sera terminé pour les gens des nations. La grâce de... Le jour de grâce sera fini pour l'Église des nations. L'âge pentecôtiste sera fini. Les dénominations iront de l'avant parce qu'elles apparaissent ici avec la Vierge endormie. Nous verrons cela dans un petit instant. Mais c'est avec cette catégorie-là qu'elles apparaîtront. Mais là, quand elles feront cela, les Juifs recevront le baptême du Saint-Esprit. Et il y aura un réveil là-bas qui fermera les cieux au jour. Il ne tombera point de pluie. Ils accompliront toutes sortes de signes et de miracles. Et finalement, la hiérarchie de Rome. Les Juifs possèdent les richesses du monde. Et alors l'Église catholique romaine rompra son alliance avec les Juifs à la fin de cela. Et il y aura ensuite le traité qu'ils avaient signé ensemble. Il ira là-bas. Et c'est donc là que Dieu se lèvera comme il le faisait au temps jadis. Et il combattra pour Israël. Ils finiront par tuer ces deux prophètes. Leurs cadavres resteront dans la rue. Et on crachera sur eux, comme ils l'ont fait pour ce pasteur pentecôtiste, sa femme et ses enfants là-bas, il y a quelques semaines. Le petit ventre de ses enfants a enflé gros comme ça, et les gens passaient près d'eux et leur crachaient dessus. Ils les ont laissés étendus là, sous un soleil brûlant, pendant 3 ou 4 jours, sans les enterrer. Ils feront la même chose. C'est ce que dit la Bible. Ils feront la même chose là-bas. Et quand ils l'auront fait, 3 jours après que les corps auront été étendus là, morts, l'esprit de vie entrera dans ces deux prophètes, et ils ressusciteront et monteront dans la gloire. C'est à peu près au même moment que les feux d'artifice commenceront. C'est la fin des temps. C'est là que tout sera terminé. Mais avant que cela n'arrive, l'épouse élue des nations, de certains d'entre vous qui seront assis à une table, un de ces matins, l'un sera pris, l'autre laissé. Vous vous demanderez finalement, qu'est-ce qui se passe? Vous serez en voiture, en train de parler à quelqu'un, à votre femme ou votre mari, assis sur le siège. Ils ne répondront pas. Ils ne seront plus là. Vous courez au cimetière. Certaines tombes seront ouvertes, d'autres seront encore fermées. Car les autres morts ne revinrent point à la vie pendant 1000 ans. Souvenez-vous, ce sera terminé à ce moment-là. Ça sera une venue secrète. Personne ne saura quand elle se produira. Nous avons reçu l'ordre d'être prêts et de veiller. Nous ne connaissons pas l'heure, mais quoi qu'il en soit, nous ne devancerons aucun de ceux qui sont ici. Car dès que Jésus apparaît, toutes les veilles se lèvent, morts ou vivants, peu importe. Nous ne le rencontrerons pas premièrement. Nous nous rencontrerons les uns les autres premièrement. La Bible dit, dans Éphésiens, chapitre 5, elle dit, « Nous, les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Ici-bas, nous ne devancerons pas ou ne ferons pas obstacle à ceux qui sont morts. Ces précieuses personnes qui ont scellé leur sang, ont scellé leur témoignage de leur sang. Nous ne devancerons ou ne ferons pas obstacle à ceux qui sont morts. Car la trompette sonnera. Quelque chose se produira. L'Évangile, quelque chose sera proclamé. L'annonce de sa venue. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons changés. Vous serez là et vous sentirez un changement s'opérer en vous. Les cheveux gris disparaîtront, les rides s'effaceront. Vous serez changés en un instant, en un clin d'œil. Nous verrons premièrement nos bien-aimés. Voilà maman, papa, voilà mon ami. Oh, alléluia, nous sommes prêts. Et alors, ensemble avec ceux qui étaient morts, dit l'Écriture, nous serons enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. C'est ça, l'ordre de la venue. Oh, de revoir mon vieux papa, oh là là, revoir ces braves bien-aimés qui sont allés dans l'au-delà dans la foi, les rencontrer. Vous voyez la bonté de Dieu. Il savait que si nous le rencontrions, premièrement, nous nous demanderions, maman en faisait-elle partie? Est-ce que maman y est finalement parvenue? Nous avons prêché de toutes nos forces. Nous avons essayé. Était-elle là? Oncle Joe est-il là? Est-ce que le frère est là? Est-ce qu'un tel est là? Voyez, Seigneur, nous t'aimons, mais nous nous rencontrerons les uns les autres premièrement. Oh, 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 pas d'inquiétude à ce sujet. Nous y sommes tous. Pas étonnant qu'il se soit mis à dire « Amen, gloire, sagesse, honneur, puissance et force ». Les 24 vieillards ont enlevé leur couronne et se sont jetés par terre ainsi. Ils se sont tous couchés par terre et l'ont adoré. Un de ces jours, nous serons au-dessus de la terre, là-bas, au-delà de l'anneau de la terre, là-bas quelque part dans l'espace. Nous ne serons pas encore au ciel. Nous serons enlevés pour le rencontrer dans les airs. Quand Rebecca s'est décidée, quand elle a promptement pris la décision d'aller avec Eliezer, à dos de chameau, à la rencontre de Jacob ou à la rencontre d'Isaac, qui était son futur mari. Elle ne l'avait jamais vu. Elle savait que Dieu la conduisait. Le fils de Jacob, ou Isaac, était sorti dans les champs, dans la fraîcheur du soir. Souvenez-vous, c'était au temps du soir. Et Rebecca était à dos de chameau. Eliezer a dit, « Le voilà qui vient. » Rebecca a sauté du chameau, a ôté le voile de son visage. Elle ne l'avait jamais vu. Elle ne savait pas c'était son mari, mais elle ne l'avait jamais vu. Elle allait le rencontrer par la foi. Je ne sais pas à quoi il ressemble, mais oh, quand je le verrai. Et là-bas, quand elle l'a vu, ça a été le coup de foudre. Et lui, il ne l'avait jamais vu. Et quand il l'a vu, ça a été le coup de foudre. Voilà que l'un et l'autre se sont rencontrés dans les champs. Il l'a fait entrer pour demeurer là, dans le royaume de son père, et l'a épousée. C'est ainsi que l'Église sera enlevée dans les airs, au milieu des airs, et qu'elle rencontrera le Seigneur qui, lui, sera en train de descendre. Oh, quelle histoire ce sera! Le coup de foudre! Et quand nous serons là, au-delà des anneaux de cette terre, à chanter ces cantiques de la rédemption, oh là là! Comme nous le chanterons et le louerons pour notre la grâce rédemptrice qu'il nous a donnée. Quant aux anges, ils couvriront les bords du cercle de la terre avec leurs têtes inclinées. Ignorant tout ce dont nous parlerons, ces anges n'ont jamais été perdus. Ils ne sauront pas ce que c'est que d'être sauvés. C'est nous qui étions perdus. C'est nous. Nous comprendrons à ce moment-là la chose horrible qui nous attendait et dont il nous a rachetés par son sang. De toute tribu, langue et nation, quel jour de réjouissance ce sera! J'aime ce cantique qui dit « Il y aura une rencontre dans les airs, dans le doux, doux au-delà. Je vous rencontrerai et vous saluerai là-bas, dans cette demeure au-delà du ciel. » Des chants comme jamais mortel n'a entendu. Ce sera glorieux, je vous le dis, quand le Fils de Dieu lui-même, il sera à la tête de cette rencontre dans les airs. Oh, on vous a parlé de Moïse dans les roseaux. On vous a parlé de David et sa fronde. On vous a parlé de Joseph et de ses songes. Et de Daniel et les lions. Oh, mais il y en a plusieurs autres dans la Bible. Et j'aimerais les rencontrer, je vous le dis. C'est vrai. Et quelle joie ce sera lorsque nous les rencontrerons à cette rencontre dans les airs. Nous attendons ce jour-là. Voilà vos 144 000 qui recevront l'Évangile après que nous. Ils ne peuvent pas le recevoir en même temps que la lumière brille sur les gens des nations. Les Juifs le renient et dissimulent cela. Maintenant, quand la lumière, les gens des nations sont enlevés, alors l'Esprit vient sur deux personnes pour leur rendre témoignage. Là, les Juifs reçoivent cela. Ce sont les 144 000 des tribus perdues d'Israël qui recevront l'Évangile. Et l'épouse est enlevée. Maintenant, il y a 10 vierges. Prenons Matthieu 21 tout de suite. Voyez, nous avons encore un peu de temps. Oh, j'aime la Bible. Quand je prendrai mes vacances au ciel, quel merveilleux voyage ce sera d'entendre les concerts de la chorale céleste. Et les portes de le visage de mon Sauveur, je verrai. Assis au bord de la rivière, à l'ombre de l'arbre toujours vert, je veux passer mes vacances au ciel. Ne voulez-vous pas venir passer les vôtres avec moi? Maintenant, dans le livre de Matthieu, je crois au chapitre 25, je crois. J'ai dit 21, n'est-ce pas? Je l'avais noté ici, 21, mais ce n'est pas ça. C'est 25. J'ai dû me dépêcher ce matin. Je me suis levé tard, fatigué, et je me dépêchais. J'ai noté quelques passages des Écritures, et j'ai écrit 21, alors que c'est 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Bon, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Et les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent, avec leur lampe, de l'huile dans des vases, comme l'époux tardait. Ça, c'est au cours de ces âges de l'Église. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. Tout au long des âges, les deux sont mortes. Elles se sont assoupies et se sont endormies. Voyez, tout au long des âges. Eh bien, elles ne sont pas perdues, mais elles sont juste assoupies et endormies. Elles attendent. Voyez, il n'est pas dit qu'elles sont mortes, mais qu'elles se sont assoupies et se sont endormies. Voyez. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Et toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Excusez-moi. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Maintenant, vous voyez, ce n'étaient pas des incroyants, c'étaient de braves gens. « Ouvre-nous !» Mais la réponse, « Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme va venir. » Maintenant, les cinq vierges sages. Eh bien, l'huile dans la Bible symbolise le Saint-Esprit. Ça, nous le savons tous. C'est pourquoi nous oignons les malades d'huile, et l'huile symbolise le Saint-Esprit. Ainsi, les sages avaient de l'huile dans leur lampe, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Elles étaient donc prêtes pour entrer au souper des noces. Et nous pourrions remonter dans Ézéchiel 9, et ainsi de suite, pour faire ressortir cela et le démontrer. Mais j'ai encore une quinzaine de passages de l'Écriture inscrits ici. Donc l'huile sainte, je crois que nous l'avons déjà vue lors de notre étude cette semaine. L'huile est, ça symbolise le Saint-Esprit. Nous le savons tous. Maintenant, regardez, elles, toutes les deux étaient des vierges. Maintenant, laissez-moi prendre cela. Voici, prenons ces deux qui sont juste ici. Celle-ci est une vierge, et celle-ci est une vierge. Celle-ci était une vierge folle, et celle-ci était une vierge sage. Mais les deux sont des vierges. Maintenant, si vous prenez ce mot « vierge » et que vous le passez en revue, cela signifie « saint », « pur », « sanctifié ». Le mot « sanctifié » vient du mot « saint ». Ce qui signifie « pur », comme le mot hébreu. Or, c'est un mot grec. « Sanctifié » signifie « pur ». Maintenant, le mot hébreu, c'est « rendre saint ». Voyez, et le nôtre, c'est « pur ». Maintenant, ils prennent les trois mots, puisque chacun de ces mots a la même signification, mais on le prononce différemment, comme les mots « pur »,« saint ». Sanctifié. Tous les trois mots sont les mêmes. C'est pareil pour la prononciation du mot chien. Si je dis dog, c'est de l'anglais. Si je voulais dire chien en allemand, Fred, ce serait Hund, pas vrai? Frère Norman. Si je voulais dire chien en espagnol, ce serait Ajo. Ajo, Hund et dog. Pour nous, tout ça signifie chien. Voyez, c'est simplement cela. C'est une expression. Alors le mot grec pour pur, c'est sanctifié. Le mot hébreu, c'est saint. Saint, pur et sanctifié. C'est le même mot. Ce n'était donc pas une église souillée et sale. C'était une église sanctifiée et pure. 10 vierges sont sorties à la rencontre de l'époux. Qu'est-ce que cela signifie? Toutes ces églises, pas ici, parmi l'église romaine, mais parmi celles des dénominations, les Nicolaïtes, les baptistes prêchent la seconde venue de Christ, les méthodistes prêchent la seconde venue de Christ, les presbytériens prêchent la seconde venue de Christ, les nazaréens prêchent la seconde venue de Christ, les pèlerins de la sainteté prêchent la seconde venue de Christ. Pas vrai? Elles sont toutes sorties à la rencontre de l'époux. Maintenant, vous vous souvenez qu'elles étaient toutes en chemin pour aller à la rencontre de l'époux. Maintenant, si c'est tout ce que Dieu considère, alors il est obligé de les prendre, elles aussi. Mais vous vous souvenez que c'était la même chose pour la parabole de l'autre soir, quand Dieu nous a parlé pendant l'étude de l'âge de l'Église et a mentionné Balaam, la doctrine de Balaam. Eh bien, Balaam se trouvait là. C'était une très grande et belle nation organisée. Il croyait en Dieu. En effet, regardez ce que Balak a fait quand il est venu. Balaam, plutôt. Il a offert exactement le même sacrifice au même Dieu que celui d'Israël. Le Dieu d'Israël, Jéhovah. Et il a bâti sept autels. Sept, c'est le nombre de l'achèvement de Dieu. Il a travaillé 6 jours et il s'est reposé le 7e. C'était achevé. Voyez, sept, il a travaillé dans le monde pendant 6 jours. Après les premiers 2000 ans, le monde a connu la destruction par les eaux. Au terme des 2000 ans suivants, Christ est venu. Et maintenant, ce sont les troisièmes 2000 ans. Quelque chose se produit tous les 2000 ans. Le monde est de nouveau secoué. En 6000 ans, il a bâti le monde. Depuis 6000 ans, l'Église œuvre contre le monde. Et le 7e millénaire, c'est le millénium, ce règne de 1000 ans. Vous le comprenez maintenant? Maintenant, l'Église a 7 âges de l'Église aussi. Dieu est le nombre de l'achèvement de l'âge de l'Église. C'est tout. 7. 7, c'est le nombre de l'achèvement de Dieu. 7 âges de l'Église, 7000 ans de création, tout va par 7. Eh bien, ces vierges sont sorties à sa rencontre. Et là, les vierges folles n'avaient pas d'huile dans leur lampe, mais elles avaient tout le reste. Elles étaient pures, elles croyaient en Christ, elles prêchaient la parole qu'elles croyaient, ce que leur dénomination leur permettait de prêcher. Elles prêchaient cela, la seconde venue, le sacrifice, l'expiation. Elles croient. Discutez avec un bon érudit baptiste une fois. Oui, vous feriez mieux de savoir de quoi vous parlez. Ah oui, bien sûr que oui. Mais vous voyez, tellement proche, dit Matthieu 24. Matthieu 24, 24. Lisez-le tout de suite et vous verrez. Jésus a dit qu'en ces derniers jours, les deux esprits seraient tellement proches au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ce sera tellement proche que cela fera facilement baloter les pentecôtistes. Exactement. Certainement. Bon, Matthieu 24, 24. Est-ce que quelqu'un l'a? Je ne l'ai pas encore trouvé. L'avez-vous trouvé, ma sœur? Ou l'un de vous? Matthieu 24. Tu l'as, Ben? Très bien. Lisez donc. Faux Christ. Faux prophètes. Voilà. Bon, qu'est-ce qui s'élèvera? Il s'élèvera de faux Christ, de fausses personnes qui diront « Je suis de Christ », de faux prophètes qui diront « Je suis ceci, je suis cela ». Et s'il était possible, il séduirait presque même les élus. Et il n'y a qu'une seule façon d'être sauvé, c'est d'avoir été choisi avant la fondation du monde. C'est-à-dire avoir été élu par la préscience. Votre nom avait été mis dans le livre à ce moment-là. De grands miracles. Maintenant, observez ces deux églises. Oh, si je pouvais, s'il y avait un moyen pour que je puisse faire voir cela aux gens, ça brûle dans mon âme. Ces églises sont tout aussi pures et sanctifiées que celles-ci. Si elles sont toutes des vierges, elles sont toutes des vierges, tout aussi pures. La seule différence, c'était l'huile dans la lampe, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, s'il est à l'intérieur, il produit exactement le même genre de feu qu'il a produit à la Pentecôte. Mais elles n'ont pas de feu, pas d'huile dans leur lampe. Elles ont des rituels d'église. L'église est ritualiste au possible, de belles cérémonies. Rien contre cela. Des credos qui ébranleraient votre conscience. Et des chants, on dirait des anges qui chantent. Et elles sont, vous allez leur reprocher quoi que ce soit dans votre leur vie, ce serait impossible. Mais c'est quand même faux. Ce n'est pas, c'en est une partie. Mais ce n'est pas tout. C'est ce jour-là qui manque l'enlèvement. Voyez, elles sont justes. Maintenant, écoutez, voici Moab qui arrivait. Je vais le faire à partir d'ici pour que vous puissiez le voir. Voici Moab, une grande organisation. Je vais écrire ici pour organisation. Voici Israël, sans organisation. Voici Moab qui dresse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 autels. Israël avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 autels. Très bien. Ici, Moab offre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 taureaux. Israël, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 taureaux. Très bien. Moab a dit, il vient un temps où un homme, Christ, viendra sur la terre. Alors il sera l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous placerons 7, quoi, agneaux sur cet autel. Israël a dit, c'est tout à fait vrai, 7 agneaux sur l'autel. Voyez? Maintenant, au commencement, Caïn a dressé un autel. Il a offert un sacrifice. Il a adoré. Il a fait tout ce qu'Abel a fait. Sans, oh, recevez cela, sans avoir la révélation de Dieu. Pourtant, l'Église tout entière est bâtie sur la révélation. Jésus l'a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. La vérité spirituelle de la divinité suprême de Jésus-Christ révélée. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Maintenant, si Dieu n'a d'égard que pour vos rituels, vos rites, en tant que méthodiste, baptiste, pentecôtiste, et ainsi de suite, s'il n'attend que cela de vous, comme de prêcher la seconde venue et toutes ces autres choses, ça, c'est tout à fait conforme aux Écritures, comme le font les baptistes, les presbytériens, et ainsi de suite. Alors Dieu est dans l'obligation d'accepter les deux, parce que c'est tout ce qu'il exige. Mais vous voyez, sans la révélation, voilà la Vierge endormie. Voici la Vierge sage. Elles étaient une organisation, une grande nation. Nous avons lu l'autre soir où il est écrit, ces gens ne seront pas une organisation. Ils erreront ça et là dans le pays. Ils habiteront sous des tentes. Ils seront pauvres, humbles. Mais il a dit, n'essaye pas de les maudire parce que je suis avec eux. Maintenant, regardez bien. Ces gens-ci croyaient au même rituel que ceux-là. Et ils adoraient le même Dieu. Voyez? Mais ils n'avaient pas de miracles et de prodiges qui les accompagnaient. Israël avait le serpent des reins, le rocher frappé, la joie du roi, la guérison divine, les prophètes. Toutes ces choses se trouvaient ici. Et eux, ils ne l'avaient pas. Ils avaient les rituels sans la bénédiction, l'huile. Il en est de même de la Vierge endormie et de la Vierge sage. Les deux étaient des gens sanctifiés. Mais celle-ci avait de l'huile et celle-là n'avait pas d'huile. Alors elles ont dit, nous sommes aussi bonnes que vous. C'est, aucun d'entre nous n'est bon par rapport à cela. Eh bien, vous n'êtes qu'une bande d'exaltés. Eh bien, d'accord, ah oui, c'est très bien. Aucun de nous n'est bon. Nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais le seul moyen pour vous de le savoir, ce n'est pas en vous joignant à une église, pas en essayant de mener une bonne vie, mais en recevant Christ. Ce n'est pas ce que je vis, c'est ce que lui, il était. Ce n'est pas ce que je suis, c'est ce que lui, il est. Il est devenu moi pour que par sa grâce, je puisse devenir lui, le Fils de Dieu. Vous voyez cela? Maintenant, une Vierge endormie est une Vierge sage qui a de l'huile dans sa lampe. Et soudain, un cri a retenti. Voici, l'époux vient, allez à sa rencontre. Et elles se sont réveillées. Et là, celles-ci ont pu entrer parce qu'elles avaient de l'huile dans leur lampe. C'était ça la différence. Celles-ci ne pouvaient pas entrer puisqu'elles n'avaient pas d'huile dans la lampe. Elles sont reparties pour prier jusqu'à exaucement afin de recevoir le Saint-Esprit. Mais pendant qu'elles étaient parties, tout s'est terminé. Les dénominations disent, eh bien, peut-être que nous sommes dans l'erreur. Peut-être que nous ferions mieux de retourner chercher le baptême du Saint-Esprit. C'est ce qu'elles essaient de faire en ce moment. Avez-vous remarqué ça? Les presbytériens, arrête l'enregistrement un instant. Je ne veux pas citer ce nom. L'époux vient. Eh bien, combien proche est donc sa venue? Alors qu'elles essayent d'en acheter en ce moment. Très bien, Jean, continue l'enregistrement. Maintenant, vous saisissez? Pendant qu'elles allaient en acheter, elles essayent d'en acheter en ce moment. Toutes les églises essayent d'avoir un réveil. Un réveil. Elles cherchent à revenir. Or, même le docteur Billy Graham écrit dans le Héros de la foi, vous l'avez vu, de Chicago, et il a dit, nous ne pouvons pas ignorer le mouvement pentecôtiste. Voyez, nous ne pouvons pas ignoraient ce mouvement parce qu'ils ont eu plus de convertis en un an que toutes les autres églises réunies. C'est exactement ce feu qui brûle, qui secoue, qui est pur, qui jette le filet et le ramène. Et quand vous jetez un filet, Jésus a dit, le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a jeté un filet dans la mer. Et quand il l'a ramené, il y avait des tortues, des reptiles, des grenouilles, des serpents et tout. Mais il y avait aussi du poisson. C'est ce que fait le message de la Pentecôte. Il balaye la terre. On le jette et on le ramène. Et on y trouve des tortues, des écrevisses, des langoustines, des têtards, des salamandres, des grèbes. On y trouve de tout. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il s'y trouve aussi quelques poissons. Ce sont ceux-là qui appartiennent au maître. Très bien, à certains d'entre vous, les frères, vous les croyants légalistes qui écoutez cette bande, j'aimerais enfoncer le clou ici. Quand sont-ils devenus des poissons? Quand le filet est tombé sur eux, ils étaient des poissons dès le départ. C'est vrai, élus dès la fondation du monde. C'est juste qu'ils n'ont jamais été mis au service du maître. Voilà votre grenouille. Vous prenez une vieille grenouille et vous la jetez sur le rivage. Elle fait simplement « croix, croix » et retourne directement dans l'eau. Et la vieille écrevisse qui est là dira « Ah, c'est une bande d'exaltés. La voilà qui recule. Ah, 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 ah. Oh non, elle retourne directement dans la boue, le plus rapidement possible. C'est vrai. Le vieux serpent siffle un peu en chemin. Je crois que les jours des miracles sont passés. Docteur un tel et un tel me l'ont dit. Il dit « Ah, 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 ah. Vous ne pouvez pas me tromper. » Et le voilà qui repart directement là-bas. Vous voyez? Un serpent dès le départ. Une grenouille dès le départ. Paul a dit dans la Bible au sujet de cette espèce-là. Il a dit « Ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres dès le départ. » Vous voyez? Ah oui, très bien. La Vierge folle, la Vierge sage qui avait de l'huile dans sa lampe, elle s'est préparée. Eh bien, pendant qu'elle était allée chercher de l'huile, c'est ce qu'elles essaient de faire en ce moment. Ces grandes églises évangéliques qui essaient d'obtenir ces grandes choses, vous savez, de faire, de retourner à la Bible, de revenir. Il nous faut la bénédiction de Pentecôte. Eh bien, vous pouvez imaginer le genre de réunion qu'elles auront. Vous voyez, elles ne vont pas se mettre à gâcher tout le maquillage qu'elles portent et tout. Oh non, elles ne vont pas abandonner leur sororité et leurs associations et tout. Elles s'accrochent au monde d'une main, comme Ésaü, et elles essaient de s'accrocher à Dieu de l'autre. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas être un chrétien qui louche, vous savez, qui regarde à la fois à Dieu et au monde. Vous devez fixer votre regard sur le calvaire et ne vous en tenir qu'à cela. Mais maintenant, les voilà. Elles essayent d'y retourner. Souvenez-vous à quel point nous sommes proches. C'est au moment même où elles sont allées en acheter que l'époux est venu. Oh, frère Stricker, nous y sommes presque. Nous sommes tout près de la maison. Oh, un de ces matins, la trompette du Seigneur retentira et il n'y aura plus de temps. Le matin éternel poindra, resplendissant de beauté, quand ses sauvés se rassembleront dans leur maison au-delà du ciel. Quel moment ce sera? Oui, la Vierge endormie. Est-ce cette Vierge endormie, là, vous voulez savoir ce qu'il adviendra d'elle, n'est-ce pas? Il y a une chose que j'aimerais expliquer. Qu'arrivera-t-il à ces églises? Qu'arrivera-t-il à ces gens qui ont fait une partie du chemin avec Christ et qui n'ont pas persévéré ou qui n'ont pas fait tout le chemin avec Christ? Maintenant, dans Romains 2, 22, je crois, la Bible dit, Paul a dit, « Si l'Esprit de Dieu n'est pas en vous, vous n'appartenez pas à Dieu. Vous appartenez à l'organisation, mais pas à Dieu. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en vous, vous n'êtes pas de Dieu. » Voyez, vous devez avoir l'Esprit de Dieu pour être de Dieu. Certainement. Très bien, monsieur. La grande tribulation. Maintenant, si vous, ils devront passer par... Maintenant, rappelez-vous, il a dit, « Bon, laissez-moi lire le reste. Ils ont été jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. » Très bien, c'est la grande tribulation. Pas vrai? La grande tribulation. Donc, après cette tribulation, ces gens... Maintenant, laissez-moi revoir cela une fois de plus, ici. C'est le reste. Maintenant, regardez. Voici un morceau de tissu. Très bien. La dame l'étend comme ceci. Maintenant, elle va se confectionner quelque chose. Vous savez, un vêtement quelconque. Bon, tout ça, c'est le tissu dont elle dispose. Maintenant, d'un bout à l'autre, c'est exactement le même tissu. Pas vrai? Les deux étaient des vierges. Voyez? Très bien. Elles avaient foi en Christ, avaient l'apparence de la piété, allaient à l'église, faisaient de bonnes œuvres, étaient charitables. On ne pouvait rien dire contre leurs œuvres et tout. « Je connais tes œuvres », c'est ce qu'il a dit dans chaque âge. « Je connais tes œuvres, cependant, il te manque quelque chose. » Voyez? Maintenant, quand la femme, elle décide la façon dont elle va disposer le patron ici, puis elle décide comment elle va découper ce patron, ce qu'elle va découper à partir de cela. Pas vrai? Eh bien, elle détermine ce qu'elle pense être la partie la plus adéquate, la meilleure partie pour le patron. Pas vrai? En effet, c'est le même tissu d'un bout à l'autre, mais elle l'étale peut-être comme ceci ou comme cela. Elle l'étale. Puis, elle prend ses ciseaux et elle le découpe. Maintenant, ce qui n'est pas pris en compte s'appelle le reste. Très bien. Bon, quel est ce patron? Comment est-ce qu'on le reconnaît? Par celui, l'endroit que la dame a élu pour le découper. C'est Dieu qui, avant la fondation du monde, connaissait la fin dès le commencement. Par sa prescience, il a élu l'endroit où découper. Il connaissait la différence entre Ésaü et Jacob. Il connaissait la différence entre un pécheur et un saint. Il connaissait la différence. Il connaît la motivation de chaque cœur. Donc, il nous a élus avant la fondation du monde et a écrit nos noms dans le livre de vie de l'agneau. Et aussi, l'agneau qui devait être immolé. Il a écrit nos noms avant qu'il soit immolé. Et la Bible dit que Christ était l'agneau immolé avant la fondation du monde. Et nos noms ont été écrits dans le livre quand il a été élu jadis pour être l'agneau qui serait immolé. Nous avons été élus pour être ceux pour lesquels il a été immolé. Vous le voyez? Maintenant, ce sont toutes des vierges. Bon, voici le petit reste. Il n'a pas été jeté. Oh non, elle le garde, elle le met de côté pour l'utiliser à d'autres fins, voyez? Mais ce ne sera pas utilisé à ce moment-là. Ça, c'est l'Église qui est découpée. Eh bien, elles devront passer en jugement, parce qu'elles passent par la tribulation. Ça, c'est le reste. Maintenant, vous saisissez? Ici, l'Église va à la maison. Elle va à la maison. Ici, c'est le reste. Il est mis de côté. Et ici, ce sont les 144 000 qui sont sur le mont Sinaï, les Juifs. Il ne s'agit pas de trois épouses différentes. Il s'agit de l'épouse, le reste et les 144 000. Tout à fait. Il ne mangeait rien d'autre que de la nourriture du Saint-Esprit là-bas, je suppose. Donc, il allait bien. Il n'y avait rien qui n'allait pas chez Jean. Voyez, les voilà. Maintenant, à la fin des temps, combien savent que la Bible dit que les saints jugeront la terre? Paul l'a dit. Prenons maintenant le livre de Daniel pour voir le trône blanc. Nous pourrions le prendre dans l'Apocalypse, mais je préfère le prendre dans Daniel. C'est la même chose. Daniel 7, là, nous verrons le grand jugement du trône blanc. Commençons au verset 8 du chapitre 7 de Daniel. « Et je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne. » Bon, nous savons que là, nous sommes à Rome maintenant, voyez. « Et voici, elle avait des yeux d'un homme. » Bon, souvenez-vous, cette corne n'avait pas reçu de couronne. C'était une ruse. Les autres cornes se sont transformées en bêtes. Ceci était une ruse. C'était un homme, un pape, au lieu d'un païen, vous voyez. Et une bouche qui parlait avec arrogance. Maintenant, observez le verset 9. « Je regardais jusqu'à ce que l'on plaça des trônes. C'est la fin de tous les royaumes des nations. » C'est ce prophète qui parle. Maintenant, souvenez-vous, chacune de ces choses qu'il a dites est arrivée jusqu'à cette dernière chose. Nous le savons grâce au récit historique que nous étudions, dont il plaçait des trônes, et l'Ancien des Jours s'assit. Ses vêtements étaient blancs comme la neige. Vous savez qui c'était l'autre soir dans la vision? Jésus. Et les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. Et son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Et un fleuve de feu coulaient et sortaient de devant lui. Des milliers de milliers le servaient. Voilà l'Église qui revient avec lui. Voyez ? Et des dizaines de milliers, fois des dizaines de milliers, se tenaient en sa présence. Ça, c'est l'épouse qui apparaît, ainsi que le reste du monde. Et les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Et je les regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Et les autres morts, ceux qui furent dépouillés de leur puissance, furent dépouillés de leur puissance. Mais pourtant, une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Bon, les juges se sont assis et les livres ont été ouverts. Ça, c'est quand l'épouse revient et s'assied pour juger. L'Église élue, l'Église qui a été enlevée, reviendra après ces 3 ans et demi. Et après ce temps, et dans l'Apocalypse, cela est mentionné. Il est dit que les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Combien l'ont lu, maintes et maintes fois, ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Jésus revient avec l'épouse, Maintenant, souvenez-vous, comme je l'ai dit, tout va par trois. Sa venue va par trois. La première fois, il est venu pour racheter son épouse. La deuxième fois, il vient pour enlever son épouse. C'est comme dans une histoire d'amour. Il vient et l'enlève pendant la nuit. Il l'emporte loin du monde. Le rencontre dans les airs, la venue secrète du Seigneur. Voyez, la deuxième fois qu'il vient, c'est pour prendre son épouse. La première fois, c'est pour la racheter. La deuxième fois, c'est pour la prendre. Et la troisième fois, il vient avec elle, le roi et la reine. Et ici, il revient pour le jugement des nations. Paul a dit, « Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, aussi-il plaidait devant les tribunaux, ne pouvez-vous pas régler ces petites choses? Ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre? Voici que le jugement a été remis à Christ, sa côte. Ils sont les avocats à la barre. Et le voici assis sur le trône. Voici l'épouse, l'avocat. Et voici que ces gens-ci s'avancent. Les livres ont été ouverts. Et un autre livre aussi, le livre de vie. » Eh bien, le premier livre, c'était le livre du pécheur, celui du rejeté. Très bien. Dès le départ, il est condamné. Ce sont les boucs. Il n'a aucune chance. Voyez, c'est un pécheur dès le départ. Très bien. Là, il est rejeté. Quant aux brebis, elles sont passées en jugement. Il fallait qu'elles soient jugées. Et il fallait que les saints les jugent. Dieu n'est pas injuste. S'il y a des païens là-bas dans les pays, et que nous construisons des sanctuaires en or d'une valeur de 8 ou 10 millions de dollars ici, en Amérique, au lieu de leur apporter le message là-bas. Dieu nous en tiendra responsables, mais il les épargnera. Certainement, Dieu n'est pas injuste. Vous qui êtes ici, si vous n'aviez jamais su ceci auparavant, il se peut que vous n'en soyez pas tenu responsable. Mais vous en êtes responsable maintenant, voyez-vous. Vous êtes tous responsables. Notre responsabilité, c'est d'apporter le message. Vous êtes responsable que vous l'écoutiez ou non. Maintenant, les païens se lèveront. Ces gens qui sont là à adorer un sanctuaire, ils ne savent pas faire autrement. Ils ne connaissent rien du message. Dieu n'est pas injuste. Il ne les condamnera pas sans leur avoir donné une chance. Et une place leur sera réservée. Ainsi donc, dans l'Église, chaque âge, jusqu'à cet âge de l'Église-ci, depuis Éphèse jusqu'ici, le message, le vrai message de Christ, comme il l'était au début, le baptême du Saint-Esprit, la puissance, la résurrection, le parler en langue, l'interprétation des langues, les dons de guérison, le baptême au nom du Seigneur Jésus, toutes ces choses qu'il a enseignées, chaque personne qui fait partie de cette épouse s'assiera en tant qu'avocat. Voici qu'on appelle quelqu'un là-bas. Tu as eu une réunion chez un tel. Lui en as-tu parlé? Et là, l'avocat répond, « Oui, je lui en ai parlé. » C'est écrit là, dans le livre. On ne peut pas le nier. Même nos pensées s'y trouvent. Voyez, on ne peut pas le nier. Oui, je lui ai dit qu'il devait se faire baptiser. À Jeffersonville, là-bas au tabernacle, là-bas? Oui, Seigneur. Vous, Oui, c'est écrit ici, dans le livre. Tu leur as dit qu'ils devaient le faire. Ils ont même sondé les Écritures et ont vu que c'était vrai. Mais ils ne l'ont pas fait. Retire-toi de moi, toi, ouvrier d'iniquité. Je ne t'ai jamais connu. Vous voyez? C'est là qu'il sépare les boucs des brebis. Vous voyez? Il met les uns à droite et les autres à gauche. Voilà qui nous ramène de nouveau à nos trois catégories. Mais cette catégorie-ci ne sera jamais avec cette catégorie-là. Ça, c'est l'épouse. Et remarquez, l'épouse est avec lui dans le temple. Les autres travaillent et apportent leur gloire dans le royaume. Mais l'épouse est continuellement avec l'époux. Les autres n'y auront jamais accès, comme ceux qui sont ici. Ils sont appelés à servir. Ils ne seront pas rejetés, puisqu'il les a séparés, comme on sépare les brebis des boucs. Mais le bouc n'y comprenait rien. Ça ne l'intéressait pas. C'était un bouc. Il était heureux d'être un bouc. Il est donc mort en tant que bouc, et c'en était fini de lui. C'était tout, voyez. Mais la brebis, si Dieu détermine que je doive comparaître là, avec les païens qui n'ont jamais entendu quoi que ce soit. Donc, si vous prêchez cet évangile aux gens, en fait, je devrais comparaître. Ne vous rappelez-vous pas que, dans le merveilleux ravissement qu'il m'a accordé, il n'y a pas longtemps, je devais comparaître avec ces gens, et que je serais tenu responsable pour eux, et j'ai vu ces millions qui se tenaient là. J'ai dit, « Sont-ils tous des Branham ?» Il a dit, « Non. » Il a dit, « Ce sont tes convertis. » Et j'ai dit, « Je veux voir Jésus. » Il a dit, « Pas encore. Il faudra encore du temps avant qu'il vienne. Mais il viendra premièrement vers toi, et tu seras jugé par la parole que tu as prêchée. Et eux, ils se reposent là-dessus. » J'ai dit, « Est-ce qu'il en sera de même pour tous? Est-ce que Paul devra comparaître ?» Il a dit, « Oui, Paul comparaîtra aussi avec le groupe auquel il a prêché. » J'ai dit, « J'ai prêché le même message que lui. » Et ces millions de gens ont levé les mains et ont dit, « Nous nous reposons là-dessus. » Voilà, vous voyez, juste là. Oui, il a dit, « Puis nous retournerons ensemble sur la terre pour revêtir un corps capable de manger et de boire, pour y vivre ensemble tout au long des âges sans fin. » Ça, c'est la venue du Seigneur. Très bien. Bon, juste un instant. Maintenant, là, on se rapproche un peu, parce que c'est presque l'heure où notre frère ici avait prévu de faire le service de baptême, ou ce qu'il avait prévu de faire. Très bien, maintenant, au cours de cet âge de l'Église. Oh, voici quelque chose de tellement beau. J'aime tellement ça. Au cours de ces âges de l'Église, il y a deux esprits qui œuvrent presque de la même façon jusqu'ici. L'un, c'est la dénomination, l'autre, c'est le Saint-Esprit. Et Jésus a dit, il serait tellement proche qu'il séduirait même les élus, si c'était possible. Ces deux esprits sont en train de faire des marques sur ceux qui les servent, en vue du jugement à venir. Satan a promis que qu'il en aurait plus que Christ, et il en a. Eh bien, observez, soyez très attentifs maintenant, alors que nous approchons ceci. C'est plus que de simplement faire une marque sur les gens. Beaucoup sont comme Ève. Ève s'est arrêtée juste assez longtemps pour être séduite. Si elle ne s'était pas arrêtée, il n'y aurait jamais eu de séduction. Mais Ève s'est arrêtée. Et quand elle s'est arrêtée, c'est là qu'elle était séduite. Au lieu de continuer à avancer, est-ce que vous me suivez? Suivez très bien maintenant? Écoutez, la raison pour laquelle Ève a été séduite, disons-le ensemble, comme ça je serai sûr que vous avez saisi. La raison pour laquelle Ève a été séduite, c'est parce qu'elle n'a pas gardé toute la parole de Dieu. Satan la lui a citée, mais il ne lui a pas dit toute la vérité. Et la dénomination de Satan ne le fait pas non plus. Voyez, Ève est restée assez longtemps pour recevoir une partie de la parole, mais elle n'a pas pris toute la parole. Et c'est ça qu'il y a aujourd'hui. La Vierge endormie est restée assez longtemps pour recevoir une partie de la parole, mais pas toute la parole. L'Église séduite reste assez longtemps pour recevoir une partie de la parole, mais pas toute la parole. Et ils étaient sincères et honnêtes à ce sujet. Ève a été séduite. La Bible dit, elle a été séduite. Adam n'a pas été séduit. Adam était parfaitement conscient qu'il agissait mal. Mais sa femme, en agissant comme elle le faisait, l'a incité à prendre part à l'interdit. Eh bien, c'était un homme, voyez, et c'était clair pour lui qu'il... Vous comprenez, voyez? Il savait qu'il agissait mal, mais Ève pensait qu'il agissait bien. Oh, ne voyez-vous pas? C'est pourquoi Paul a dit qu'une femme ne devrait jamais prêcher l'Évangile. Oui, elle était dans le... C'est elle qui était séduite. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité, mais elle doit demeurer dans le silence. Voyez, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui était séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Il est dit, néanmoins, eh bien, elle n'est pas perdue. Elle sera sauvée en devenant mère, si elle a un mari. Et tout, si elle persévère avec modestie dans la foi et dans toute la sainteté, là, elle sera sauvée. Mais ne permettez jamais à l'une d'elles d'enseigner ni de prendre l'autorité. Voyez, Paul a dit, ne le faites pas. Il a dit, maintenant, je crois avoir la pensée du Seigneur, a-t-il dit. Elles ont dit, eh bien les prophètes là-bas ont prophétisé et nous ont dit que nous devrions prêcher. Il a dit, quoi? Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être inspiré ou prophète, qu'il reconnaisse que ce que je vous dis est un commandement du Seigneur. Voyez, c'est vrai. Il savait de quoi il parlait. Mais il a dit, s'il l'ignore, alors qu'il l'ignore. C'est tout. S'il refuse d'écouter cela, eh bien, laissez-le aller de l'avant. Il se dirige tout droit vers le précipice. Voyez, mais continuez tout simplement. Mais voilà ces deux esprits. Le raisonnement, c'est comme ces femmes qu'on emploie dans les forces de police et qu'on place là dans les rues. C'est déshonorer le drapeau américain que d'envoyer ces mères de famille là-bas, dans la rue. Et pourtant, des dizaines de milliers d'hommes sont sans emploi. Eh bien, c'est le pays de la femme. C'est le siège de la femme. Une femme prendra le pouvoir. C'est l'adoration de la femme. C'est cet esprit dogmatique, catholique, qui fait qu'on adore la femme comme un dieu. Voici c'est en train de s'installer parfaitement. Ne voyez-vous pas le piège? Il n'y a rien de plus doux que Dieu aurait pu donner à un homme qu'une femme, une vraie femme. Mais quand elle va au-delà de ça, elle ne l'est plus. C'est tout à fait vrai. Dieu n'a jamais voulu que les femmes travaillent dans ces endroits-là et qu'elles fassent ce genre de choses. Ces femmes, vous êtes, elles doivent avoir des enfants et élever leurs enfants. Elles sont toutes de petites prédicatrices, chacune d'elles. Mais elles exercent leur ministère pastoral à la maison, auprès de leurs enfants, en élevant leurs enfants. Très bien. Maintenant, deux esprits, presque identiques, exactement comme Ève, presque. Eh bien, Satan a dit, Dieu a dit,
oui,
Dieu a dit,
oui, c'est vrai,
Dieu a dit,
oui,
Dieu l'a dit, mais... Oh, certainement qu'il ne nous condamnerait pas si nous étions baptisés au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Ne serait-ce pas aussi bien? Espèce d'hypocrite sournois. Oui, monsieur, Dieu n'a jamais dit cela. Pareille chose n'existe pas, de toute façon. C'est mort. Pareille chose n'existe pas. Dites-moi où le nom de Père, Fils et Saint-Esprit apparaît. Pareil nom n'existe pas. C'est donc mort. D'où cela est-il venu? De Sardes. L'Église morte. Ça n'existe pas, ça. Tu as un nom que tu fais vivre. Tu prétends être une Église chrétienne, mais tu es morte. C'est vrai, le nom de Père, Fils, Saint-Esprit, ça n'existe pas. Oh, eh bien, c'est tout aussi valable, n'est-ce pas? Non, Paul a dit que ça ne l'était pas. Il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Nous ne savons pas s'il y a... Il a dit, eh bien, comment avez-vous été baptisé? Il a dit, venez vous faire baptiser de nouveau au nom de Jésus-Christ. Il a dit, si un ange du ciel venait vous enseigner autre chose, qu'il soit anathème. C'est la vérité. Je ne suis responsable que de la dire. Vous comprenez que ceci ne s'adresse pas vraiment à vous. C'est à cause de ces bandes que je fais cette réprimande. Vous voyez, parce que je sais où elles iront, partout. C'est donc de ça qu'il s'agit. Très bien. Ce n'est pas... Ève a été séduite. Elle a vu une partie de la parole. Moab a été séduit. La Vierge endormie a été séduite. L'Église est séduite. Les dénominations sont séduites. Voyez? Tenez-vous-en à la parole. C'est le seul moyen. Tenez-vous-en strictement à elle. N'en déviez pas du tout. Tenez-vous-en strictement à elle. Continuez à faire ce que Dieu a dit de faire. Peu importe ce que dit n'importe qui d'autre. Tenez-vous-en aux directives de Dieu. Maintenant, la Vierge endormie, elle a perdu sa position. Nous savons cela. Elle vient en jugement. Et si jamais elle a entendu la vérité, elle est condamnée. C'est vrai, vous ne trouverez Jésus nulle part ailleurs que là où vous l'avez laissé. Judas pouvait venir. Souvenez-vous, les vierges endormies, dites-vous, pourraient-elles être inspirées par le diable? Absolument. Et continuer de mener une vie pure? Oui, monsieur. Judas l'a fait. Il était sauvé. Il était sanctifié. Il a prêché la guérison divine. Et il a chassé les démons. Eh bien, il menait une vie bien droite, pratiquement pareille à celle de tous les autres. Mais quand est venue la Pentecôte, c'est là qu'il s'est montré sous son vrai jour. Il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Il a tourné les talons. Et à renier le Seigneur Jésus. C'est exactement ce que les églises ont fait. Quand on en est arrivé à la bénédiction de Pentecôte, ils s'en sont éloignés. Oh, mon auditoire, ne le voyez-vous pas? Oh, eh bien, ce soir, c'est la glorieuse pierre de fête. Mais juste un instant, je crois qu'il nous reste encore un peu de temps ici. J'aimerais aborder quelque chose d'autre. Je veux vous montrer la marque de la bête. La marque de la bête. Prenons Apocalypse 13. Juste un instant. Apocalypse 13, 15. Lisons simplement ce qu'il fera. Apocalypse 13, 15. Et il lui fut donné d'animer l'image. Il s'agit là des églises protestantes. Les églises protestantes. Il avait le pouvoir parce qu'elles avaient fait une image. Les églises protestantes, par l'intermédiaire du conseil des églises, elles préparent un endroit où toute la communauté protestante devra être unie. Combien sont au courant de ce grand bâtiment uni où on lut à ce sujet, qui était construit pour les églises du monde? Certainement, voyez, là-bas, c'est là-haut maintenant, exactement comme les nations de l'ONU. Et toutes, autant qu'elles sont, elles en font partie. Même les assemblées de Dieu, elles en font partie. Elles en font partie, voyez, les chiens qui se dévorent entre eux, comme un cochon retourne à son bourbier et un chien à ce qu'il a vomi. C'est la même chose, absolument. Elles en sont presque à renier leur position évangélique. Et voilà, elles veulent être grandes, elles veulent agir comme le reste du monde, comme ce qu'a fait Israël quand ils ont vu des rois et qu'ils ont dit « Établis sur nous un roi ». Voyez, et il a fait une image à la bête, et c'est afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête, la dénomination protestante, pas les catholiques, c'est de l'Amérique qu'il parle ici, voyez-vous, parce que ce chapitre 13 parle des Américains, la bête qui monte de, voyez, toutes les autres bêtes montent de l'eau, ce qui signifie la masse et les foules de gens. Mais cette bête-ci, elle se présente comme un agneau qui monte d'une terre où il n'y avait pas de gens. Elle avait deux cornes et elle parlait comme un dragon. Et ils ont fait une image de la bête qui était en Europe. Ils l'ont fait une image ici. Une qui a uni les églises ensemble et qui a formé cette communauté protestante. Puis, ils ont forcé toutes les autres églises, de sorte qu'ils ne pouvaient même pas acheter ou vendre ou quoi que ce soit d'autre, à moins d'accepter cette image de la bête. Maintenant, regardez ce qui arrive ici. Et elle fit que tous, grands, riches, pauvres, libres, esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre jusqu'à ce qu'il ait la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule les nombres de la bête, car c'est nombre d'hommes, et son nombre est 666. Nous savons de qui il s'agit. C'est la hiérarchie de Rome, le pape. J'ai été là-bas, et je l'ai vu moi-même. Je voulais savoir, au-dessus de son siège, disons plutôt son trône, comme quand ils ont installé le premier pape, Boniface III, au début de l'âge catholique ici. Au-dessus de cela, c'est inscrit « Vicarius Filii Dei », ce qui signifie « un vicaire du Fils de Dieu ». Dei, divinité, voyez, le vicaire du Fils de Dieu. Autrement dit, exactement comme s'il était le Fils de Dieu assis ici sur la terre, voyez, ayant toute l'autorité pour changer la Bible, changer tout ce qu'il veut. Ainsi, dites, « Je vous salue Marie ». Que dit le pape? Nous aurons le « Je vous salue Marie ». C'est réglé. Oui, oui. Eh bien, on fera telle et telle chose. Ce que dit le pape, c'est ça, un vicaire à la place du Fils de Dieu. Tout récemment, ils ont créé un dogme. Marie n'a pas été enterrée, et pourtant sa tombe et le lieu de sa sépulture sont bel et bien indiqués. Ils ont dit, non, elle a ressuscité et est montée. Le pape a dit, c'est ainsi, et c'est donc ainsi. C'est infaillible, voyez, le pape l'a dit, voyez, le vicaire du Fils de Dieu. Et il est dit, maintenant quiconque veut savoir qui est la bête, d'où vient cette puissance? Il y est dit de calculer ce nombre et que celui qui a la sagesse, là, c'est un des dons du Saint-Esprit, la sagesse, voyez? Que celui qui a la sagesse calcule le nombre de l'homme, car c'est, calcule le nombre de la bête, car c'est le nombre de l'homme, et son nombre est 666. Maintenant, prenez-le, épelez ce nom, V-I-C-O-E. Et lettre par lettre, tracez une ligne en dessous, ici, et, ou additionnez les chiffres romains, et vous verrez qu'ici, vous obtenez 666. C'est vrai. Et maintenant, faisons une image à cette bête. Et dans ce pays, ils ont fait une image, une confédération de dénominations réunies. Les Nicolaïtes se sont réunis et se sont formés en dénomination. Et finalement, ils vont unir cette confrérie. Non pas en tant que catholiques, mais ils seront unis dans une confrérie pour essayer d'éliminer le communisme. Or, la Bible dit que Dieu a suscité le communisme pour se venger des nations à cause de ce qu'ils ont fait aux enfants de Dieu. C'est tout à fait vrai. Il a dit, et ils ont donné leur pouvoir et tout à la bête pendant une heure pour venger le peuple, du sang qu'ils avaient versé. Et quand cette bombe atomique, ou peu importe ce que c'est, frappera la cité du Vatican et que la hiérarchie romaine ne sera plus, il y est dit, on a trouvé chez elle le sang de tous les martyrs qui ont été tués dans le monde. Et la voilà. Et voici l'image qui lui était faite, une confédération d'églises. Très bientôt, on sera obligé de fermer ces portes-là. C'est vrai. Ou alors, il faudra accepter la marque de la dénomination. Et nous fermerons les portes. C'est vrai. Nous avons plus de bon sens. Bon, là, je veux, juste pour condenser ce qui suit, avant qu'on se sépare dans quelques minutes. Maintenant, le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Tout le monde sait ça, n'est-ce pas? Très bien. Nous savons tous cela, que le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Bon, c'est donc, prenez Apocalypse 9:1-4. Vous verrez qu'ils avaient tous le sceau sur leur front. Dans 1 Corinthiens 1:22, Paul a dit, « Puisqu'il nous a scellés par son Saint-Esprit jusqu'au jour, Éphésiens 4:30, dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit, c'est cet ange qui sort pour appliquer le sceau sur leur front. » Eh bien, cela ne veut pas dire que vous, qu'il vous prend et fait une marque sur votre front. Le front signifie la révélation que vous recevez, voyez, et la main signifie ce que vous en faites, voyez, c'est une marque spirituelle, voyez, il ne prend pas un gros cachet et l'applique sur vous comme ceci. Oh non, c'est comme ce qui se disait ici il y a quelques années, quand le NRA est apparu, on disait que c'était ceci, cela, ou ne vous occupez pas de cela, c'est déjà fait. La Bible dit que cela a commencé tout là-bas, au commencement, c'est presque terminé maintenant, voyez. C'est vrai. Mais il a marqué du sceau, voyez. Maintenant, comment était le premier sceau? À quoi cela ressemblait-il? Ils étaient remplis du Saint-Esprit, c'est vrai. Et leurs œuvres étaient les œuvres de Christ. Ils imposaient les mains aux malades et les malades étaient guéris. Ils accomplissaient toutes sortes de signes, de miracles et de prodiges. Et sur leur front était scellée la révélation qu'il était le Fils de Dieu. Et ils étaient à l'œuvre avec lui, la divinité de Christ. Voilà la marque. Vous dites, eh bien, maintenant, il est la troisième personne ou la deuxième paire. Vous n'avez pas encore de sceau. Donc, laissez simplement ça tranquille. Voyez, vous êtes en dehors. Vous êtes exclu, là. En effet, pareille chose n'existe pas dans la Bible. Nous bénissons, nous croyons en la Sainte Trinité. Vous êtes très, là, vous n'êtes même pas proche de la chose, vous voyez. Parce que la Trinité, ça n'existe pas. Ça n'a jamais été mentionné dans la Bible. Trouvez le mot « Trinité » dans la Bible et venez. Dans le Fils, appelé la filiation, maintenant il est en vous, le baptême du Saint-Esprit, le même Dieu. Le Saint-Esprit était le Père de Jésus-Christ. « Un peu de temps et le monde ne me verra plus », a dit Jésus. « Je viens de Dieu et je retourne à Dieu, de nouveau au Saint-Esprit. Et je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin, jusqu'à l'anéantissement. D'un bout à l'autre, je serai toujours en vous. » Ainsi, là où et les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Les choses que j'ai faites se poursuivront d'un bout à l'autre. Ce sera pour le croyant. Allez prêcher et baptisez-les au nom du Seigneur Jésus, et ils seront remplis de mon esprit. Et s'ils le sont, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru jusqu'à la fin du monde. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a été élevé dans la gloire. C'est ça. Et nous attendons sa venue un de ces jours. Bon, là, c'est le sceau de Dieu. Nous le savons. Et souvenez-vous, il n'y a que 144 000 juifs qui sont scellés, c'est-à-dire le reste des juifs qui ont été mis de côté. Mais au sein de celle-ci, l'épouse des nations, au sein de l'épouse des nations, il y en avait des dizaines de milliers de milliers qui y étaient scellés, puisqu'il s'agit là des martyrs et de tous ceux des différents âges. Ils ressusciteront au jour du jugement. Que pensez-vous qu'il arrivera ce jour-là, quand ces pieds d'airain du jugement seront là et que ces martyrs se lèveront là, devant ces Romains, peut-être ces Nicolaïtes d'autrefois, qui les avaient fait mourir sur le bûcher, jetés dans les fosses aux lions et des choses comme ça, et se tiendront là pour leur servir d'avocat au juge, dans le banc des jurés. Le juge sera assis là sur le trône. Leur avez-vous prêché l'Évangile? J'ai scellé ma vie là-bas, dans la gueule d'un lion, à cause d'eux. Ouh, frère, parlez-moi donc de retirez-vous de moi. L'enfer sera trop bon pour eux. C'est tout à fait vrai. Tenez ferme. Je connais ceux qui se disent, les Nicolaïtes, qui se disent remplis de l'esprit et qui ne le sont pas. Là, voyez, voilà. Oh, cette heure qui approche, quel moment redoutable. Dieu se vengera. À moi la vengeance, dit le Seigneur. À moi la rétribution. Et chaque mauvaise action recevra une juste. Tout ce que vous aurez fait ou pensé dans votre vie sera retenu contre vous là-bas. Sur cette grande chose magnétique, contenant chaque mauvaise pensée qui aura traversé votre esprit. Repentez-vous, mes enfants. Il n'y a qu'un seul moyen d'y échapper. C'est d'entrer en Christ. Et quand vous entrez dans son merveilleux côté, aux cinq blessures, les cinq précieuses blessures de son corps, quand vous verrez ce saignement là-bas et que vous vous cacherez là-dedans, vous direz, « Rocher des âges, je suis bon à rien, cache-moi, rocher des âges. » Ressentez le précieux Saint-Esprit, mourez simplement et voguez dans le corps de Christ. Levez-vous pour vivre de nouvelles choses. Autour de vous, c'est un monde nouveau. Les péchés que vous aimiez autrefois sont derrière vous. Oh, il n'y a rien dans le futur, rien dans le présent, ni la mort, ni rien d'autre ne pourra jamais vous séparer de cela. Vous êtes scellés jusqu'au jour de votre rédemption par le Saint-Esprit. Vous avez la révélation de qui il est. Vous savez dans votre cœur que vous êtes passé de la mort à la vie. Observez les œuvres de vos mains à ce moment-là. Vous voyez, vous ne volez plus, vous ne faites plus le mal. Vos mains sont pures de tout sang. Vous vous levez, vous prêchez l'Évangile, vous dites la vérité, vous menez une vie droite et vous faites ce qui est juste. Et le Saint-Esprit vous accompagne, faisant des miracles et des prodiges chaque jour. Dieu vous fait ainsi savoir ceci. Tu es mon enfant béni et je suis avec toi. Je suis vraiment avec toi. Peu importe où tu es, je suis avec toi. Je t'accompagnerai dans les heures sombres et partout. Oh, quelle ancre! J'ai ancré mon âme dans le port du repos. Je ne naviguerai plus les mers déchaînées. Oh, la tempête peut s'élever alentour. Mais en Jésus, je suis à l'abri. Même si la mort vient chanter près de vous un de ces jours et qu'elle vole comme une abeille autour de votre tête comme ça, vous pouvez dire, « Oh mort, où est ton aiguillon ?» Comme l'a écrit la petite Sarah l'autre matin, ma petite fille assise là au fond, elle prenait des notes, elle et la petite fille de frère Collins, je crois, sur ce que j'allais dire. Donc, je lisais ses notes, sa mère et moi, et elle a dit, « Le livre des révolutions ». Amen. Elle a dit, et vous connaissez la petite histoire que j'ai racontée à la fin, à propos de la mort, vous savez, vous l'avez entendu, elle n'a pas d'aiguillon. Étiez-vous là quand cela a été raconté? Voyez, autrefois, la mort avait un aiguillon. Mais quand Satan n'était pas trop sûr si cet homme était le fils de Dieu ou pas. Vous l'auriez vu debout là-bas quand Satan est venu à lui et a dit, « Eh bien, si tu peux accomplir des miracles, si tu es un homme qui opère des miracles, Alors, c'est toi qui es ce fils de Dieu. Je te le dis, il est écrit dans la Bible, tu vois, que, et si tu l'es, laisse-moi te voir opérer un miracle. Maintenant, tu as faim, tu n'as pas mangé depuis 40 jours. Pourquoi ne prends-tu pas cette pierre pour en faire du pain et t'asseoir pour manger? Laisse-moi te voir le faire, et je croirai que tu es le fils de Dieu. Il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Oh là là! Là, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas affaire à Moïse. Pas vrai? Moïse avait jeté à terre les commandements et les avait brisés. Mais il s'est rendu compte qu'il avait affaire à plus grand que Moïse. Ensuite, il a amené en hauteur et a dit, « Tu vois tous ces royaumes du monde? Voilà les États-Unis, voilà la Grande-Bretagne, et il y en aura qui viendront dans les années à venir. » Il a dit, « Ils m'appartiendront tous. » Tu le sais, c'est celui qui les gouverne. Il a dit, « Ils m'appartiennent et j'en fais, je les envoie à la guerre. » Je fais d'eux tout ce que je veux. Ils m'appartiennent. Il a dit, je te les donnerai si tu m'adores. Il a dit, arrière de moi, Satan. Il savait qu'il allait en être l'héritier de toute façon à la fin. Alors il a dit, arrière de moi, Satan. Finalement, quand ils l'ont saisi là-bas un jour et qu'ils ont pris un chiffon et l'ont mis autour de son visage comme ceci, j'imagine une vieille écharpe sale qu'ils ont enroulée autour de sa tête. Et il était assis là, saignant. Blessé. Le vent froid du matin soufflait, il avait déjà fouetté, et du sang lui coulait sur les épaules. Ils ont jeté quelque chose autour de lui, comme ça, et le sang lui collait sur le dos. Il était assis là, une couronne d'épines descendue sur son visage, comme ça. Du sang et les crachats des soldats lui coulaient partout sur le visage, alors qu'il était assis là. N'était-ce pas là un spectacle affreux à voir? Oh Dieu! Vous dites, si j'avais été là, j'aurais fait quelque chose. Alors, pourquoi ne faites-vous pas quelque chose maintenant? En effet, si vous auriez fait la même chose que vous faites maintenant. Voilà qu'il était assis là, on se moquait de lui, et on lui crachait dessus. Et les disciples se tenaient à l'écart. Ils disaient, « Oh là là, comment cela est-il possible? Cet homme qui pouvait faire sortir un homme mort de sa tombe, regardez-le maintenant. » Mais en fait, il ne connaissait pas les Écritures. C'est ce qu'il en est, voyez? Et là, il avait du sang et des crachats sur le visage. Ils lui ont mis un chiffon sur les yeux et ont dit, tu sais, on me dit qu'il discernait les esprits, tu sais, il est un prophète. Il pouvait dire des choses aux gens. Il a dit à la femme au puits ce qu'étaient ses péchés. Et il a dit à Simon que son père s'appelait Jonas et tout à ce sujet. Voyons s'il en est capable. Ce qu'il peut faire maintenant. Ils ont dit, nous allons lui faire passer un petit test. C'était le diable qui agissait dans ces gens-là. Ils lui ont mis le chiffon sur les yeux, comme ça. Ils ont pris un bâton et l'ont frappé sur la tête. Et ont dit, si tu es un prophète, dis-nous qui t'a frappé. Il n'a même pas ouvert la bouche. Il est simplement resté là. Satan a dit, vous savez que ça ne peut pas être l'un. Ça ne peut pas être Dieu. C'est la même chose que la vieille dénomination dit aujourd'hui. Cette bande d'exaltés, ça ne peut pas être Dieu. Mais ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Ça ne peut pas être Dieu qui fait ces choses. C'est de la télépathie mentale. Ils sont des diseurs de bonne aventure. Ils n'ont tout simplement pas saisi cela. C'est tout. Alors, ils ont commencé à gravir la colline. Et lui ont mis cette tunique, le seul vêtement qu'il ait jamais eu, je pense, quand il était devenu un homme. Marie et Marthe lui avaient confectionné une petite tunique, tissée, d'un seul morceau, sans couture. Ils l'ont mise sur son dos. Et il y avait de petites taches sur son vêtement, comme il gravissait la colline, traînant cette vieille croix qui cahotait, et son petit corps frêle qui avançait, tandis qu'on le fouettait et tout, pour qu'il continue d'avancer comme ça. Cette vieille croix qui faisait boum, boum, et qui lui frottait les épaules. Il titubait et il continuait d'avancer. Ces petites taches sont devenues de plus en plus grandes, au point qu'après un moment, elles n'étaient plus qu'une seule grande tache. Le vieux Satan est venu, vous savez, sous la forme d'une abeille. Cette mort, vous savez, il a fait « Ah ah ah, ça, Dieu ne ferait pas ça !» Il a dit « Ce n'est qu'un homme, il est un imposteur !» Il le pense encore. « Il est juste un imposteur !» Alors, je vais le piquer. S'il était Dieu, il n'accepterait pas de mourir. Alors, je vais le piquer pour voir ce qu'il en est, comme ça. Je vais le tester. Alors, quand il l'a cloué à la croix, il a enfoncé son aiguillon en lui. Mais dès qu'il l'a fait, il a perdu son aiguillon. Il était plus qu'un homme. Cette fois-là, c'est Dieu qui l'avait piqué. Et c'est pour cela qu'il a dit, « Oh mort !» Quand Paul, vous savez, une abeille, une fois qu'elle pique profondément, elle ne peut plus piquer. L'abeille est fichue à ce moment-là. Elle peut bourdonner et faire du bruit, mais elle ne peut plus piquer parce qu'elle n'a plus d'aiguillon. Donc, la mort n'a plus d'aiguillon. Paul, lorsqu'on préparait un endroit pour le décapiter, la mort pique, bourdonnait autour de lui. Il a dit, « Ô mort, où est ton aiguillon ?» La tombe disait, « Je t'aurai, Paul, je t'engloutirai. » Je suis allé là où on l'avait décapité et jeté dans les égouts. La tombe disait, « Je rongerai ton corps, je te ferai tomber en pourriture. » Et il a dit, « Ô tombe, où est ta victoire ?» Voyez, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Pour lui, la mort avait perdu son aiguillon. Il a dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, et désormais m'est réservée la couronne de justice que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour-là. Et pas seulement à moi, mais encore à tous ceux qui aiment son avènement. Amen. Décapitez-moi maintenant, si vous voulez. » Oui, oh, c'est ça. C'est ainsi, frère. C'est le véritable esprit chrétien. Bon, si vous en avez l'occasion, comment reçoit-on la marque de la bête? J'aimerais juste parler de ceci, parce que j'avais prévu terminer là-dessus. Comment reçoit-on la marque de la bête? Aimeriez-vous le savoir? Quelles en sont les conséquences? Qu'est-ce que la marque de la bête? Nous savons ce qu'est le sceau de Dieu. Qu'est-ce que le sceau de Dieu? Eh bien, prenons Éphésiens 4, 30. Et alors vous saisirez cela, là, vous le lirez vous-même. Ou que certains d'entre vous prennent Apocalypse 9, 1 à 4. Et d'autres, 2 Corinthiens 1, 22. Il y a de nombreux passages. Là, j'en ai noté quelques-uns. Mais prenons Éphésiens 4, 30. Et là, vous verrez ce qu'est le sceau de Dieu. Ça se trouve aussi dans ces autres passages et ailleurs. Cherchez simplement le mot « sceau » dans votre concordance et parcourez les références à votre guise. Très bien. Éphésiens 4, 30. Écoutez ceci. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. » Le sceau de Dieu, qu'est-ce que c'est? Le Saint-Esprit? Certainement. Très bien. Donc, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne m'appartient pas. Si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes une partie de Dieu parce que vous lui appartenez. Il vous a scellé et il est en vous, il agit en vous. Et les miracles qu'il accomplit, vous les accomplissez aussi. Maintenant, vous qui êtes dans mon auditoire, est-ce que tout le monde comprend cela? Il faut le Saint-Esprit pour être de Dieu, le Saint-Esprit. Et si vous êtes du Saint-Esprit, vous faites les œuvres que Jésus a faites. Voyez, votre amour, quand on te crachait au visage et te frappait ainsi, il n'y avait en toi aucune racine d'amertume. Il a baissé les yeux vers eux et a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Voyez, ils ne le savaient pas. Pouvez-vous imaginer ça? Ses propres enfants réclamaient son sang. Le Créateur des cieux et de la terre, suspendu à une croix qu'il avait lui-même créée, il l'avait fait sortir du sol. Ses propres enfants, pensez à vos enfants, vous les pères, à vos propres enfants, ils criaient contre lui. « À mort! Rendez-nous Barabbas, ce voleur qui est là-bas! » Oh, ce Barabbas, c'était moi. C'est moi qui méritais la mort. Et il a pris ma place. Comment le vieux Barabbas a dû se sentir ce matin-là en entendant le bruit des pas du centenier qui s'approchait, là, et qu'il a ouvert la porte. Le vieux Barabbas se disait, « Oh là là, encore un peu de temps et je ne serai plus de ce monde. Je suis un meurtrier, je suis un voleur. Ils me tueront aujourd'hui, je le sais. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pâque, donc je suis sûr, je sais que je vais mourir aujourd'hui. » Il avait été nerveux toute la nuit. Il faisait les 100 pas comme n'importe quel autre pêcheur. Soudain, voici venir le garde. Il s'est dit, « Oh, ça y est, je vais y passer. » La clé a été introduite et elle a fait clic. Le garde s'est mis au garde à vous. « Barabbas, sors !»« Oui, je sais que je vais mourir. »« Non, vas-y, fais comme bon te semble. »« Quoi ?»« Va et fais comme bon te semble. Sors !» Tu es libre. Je suis libre? Eh bien, vous m'avez condamné à mort. C'est vrai. Dieu condamne tout pécheur à mort. Vous m'avez condamné à mort. Comment se fait-il que vous me rendiez la liberté? Viens ici, Barabbas. Regarde celui qui monte la colline là-bas. Écoute cette croix qui cahote sur le sol. Écoute le bruit des clous qu'on enfonce dans ses mains. Regarde-le pleurer là-bas. Et vois ce mélange de larmes salées et de sang qui lui coulent sur le visage. Il a pris ta place, Barabbas. Il est mort pour toi. Vous voulez dire qu'il est mort afin que je sois libre?
Oui.
Bon, d'accord. Je vais recommencer à commettre des meurtres. Oh, quelle ingratitude! Vous méritez la mort. Quand je contemple la merveilleuse croix où le prince de gloire mourut, je considère mon plus précieux gain comme une perte. Oh là là, pas étonnant que le poète ait dit « Vivant, il m'aima, mourant, me sauva, enseveli, emporta mes péchés, ressuscitant, il me justifia. Un jour, il revient, ô jour glorieux. Comment pourrais-je le rejeter quand je vois ce qu'il a fait pour moi? Comment le pourrais-je? J'accepterais volontiers de perdre tous les amis que j'ai sur la terre. Comment, quand j'accepterais volontiers d'être mis à la porte des organisations et traité sans ménagement et tout. Quand je regarde là-bas, il a pris ma place alors que j'étais condamné à mort. Certainement, Seigneur, tout, je considère tout le reste comme vain, une perte. Oh, laisse-moi étreindre la croix, ô Seigneur, alors que les rochers se fondaient et que les cieux s'assombrissaient. Mon Sauveur courba la tête et mourut. Le voile déchiré révéla le chemin vers les joies du ciel et le jour sans fin. Oh, laisse-moi rester près de toi, Jésus. Ne me repousse pas loin de ton précieux côté où, de tes cinq blessures, je vois couler le sang. Oh, Prince du ciel, toi qui es mort, tu es mort pour moi, tu es mort pour que je puisse, un condamné dans les chaînes du péché, dans la prison de l'enfer, condamné, coupable, en route pour être détruit à jamais. Et quelqu'un a pris ma place. Et puis je labourais ici quand j'étais un an, c'était il y a environ 18-20 ans, un jour, le Saint-Esprit, je me demandais, eh bien, qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Il a dit, il a pris ta place. Tu allais là-bas. Il a pris ta place. Le voilà. J'ai dit, ô agneau de Dieu, ô agneau de Dieu, je viens, je viens. Je n'ai rien à t'apporter. Je n'ai rien à t'offrir, Seigneur. Mais à ta croix, je veux rester. C'est tout ce que j'ai. Et il m'a accueilli. Il m'a revêtu comme l'a fait ce Père pour le Fils prodigue. Il m'a revêtu d'un vêtement neuf. Un vêtement qui n'était pas à moi, c'est du vêtement de sa justice qu'il m'a revêtu. Et il a mis une alliance à mon doigt, afin que je sois avec l'épouse ce jour-là. Maintenant, le veau gras a été tué, et nous sommes dans la joie, parce qu'autrefois, j'étais mort, et maintenant je suis vivant. J'étais perdu, et maintenant j'ai été retrouvé. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'étais pire que Barabbas. J'étais perdu, errant de lieu en lieu. Quand il m'a retrouvé, ma vie fut complètement changée au moment où j'ai cru. Depuis ce jour, de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Quand nous aurons été là pendant 1000 ans, brillant comme le soleil, plus d'étoiles, le soleil, nous pourrons, comme au commencement, lui offrir nos hommages. Nous serons dans l'éternité à ce moment-là. Oh, comme j'aime Jésus, parce qu'il m'a aimé le premier. Oh, comme c'est merveilleux. Prenez avec moi Exode, s'il vous plaît, le chapitre 21, l'exhortation de son esprit. Maintenant, nous allons parler de la façon dont on reçoit. Je vous ai montré et je vous ai parlé des conséquences. Le voilà. Eh bien, comment reçoit-on la marque de la bête? Là, je vous montrerai le destin funeste qui vous attend. Donc, la marque de la bête. Exode, chapitre 21. Je le prends dans l'Ancien Testament pour que vous puissiez le voir ici. Dans le Nouveau Testament, j'ai aussi noté beaucoup de passages des Écritures ici. Et nous les connaissons tous. Maintenant, lisons. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, maintenant souvenez-vous, c'est un hébreu, c'est-à-dire un croyant, voyez. Un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre, sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui donne une femme, qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître, et il sortira seul. Je ne vais pas, je sais que mon temps est écoulé. Excuse-moi, frère Neville, mais il faut que j'enfonce bien ceci, frère. Regardez bien, il ne s'agit pas de ce qu'est votre mère, de ce qu'est votre père, il s'agit de vous, pas votre femme. Voyez, sa femme ne comptait pas, ses enfants ne comptaient pas. C'était lui. Peu importe, votre mère était peut-être une sainte, votre père était peut-être un saint. Il en était de même pour le père et la mère d'Ésaü, mais il était un coquin, voyez. Mais c'est une affaire individuelle. Il s'agit de vous. Vous dites, mon père est un prédicateur. Ça n'a rien à voir avec vous. Ma mère est une sainte femme. Oh, elle est au ciel. C'est peut-être vrai. Mais qu'en est-il de vous? Il s'agit de vous. Si l'esclave, maintenant c'est ici qu'il... Maintenant, observez cette marque de la bête, là. Bon, je n'ai pas le temps de revenir en arrière, parce qu'il ne reste que 20 minutes. Mais j'aimerais vous en parler. Alors, il arrivait un temps où on faisait une proclamation tous les 7 ans. Il s'écoulait 6 ans. La 7e année, vous qui étudiez la Bible, les ministres et tous ceux qui sont assis ici savent que c'est vrai. On appelait la 7e année l'année du jubilé. Tout se reposait. On ne plantait rien la 7e année. On laissait reposer la terre et tout. On glanait tout simplement. Voyez? On laissait tout reposer la 7e année. Et un sacrificateur sonnait de la trompette la 7e année. Et si un homme était un esclave, peu importe les dettes qu'il avait, il était libre. Donc ça, c'est un type de la trompette de l'Évangile. Vous avez peut-être servi le diable toutes ces années, dans les chaînes de la boisson, de la cigarette, des jeux, du péché, des souillures, ou quoi que vous ayez fait. Mais quand vous entendez le son de la trompette de l'Évangile, c'est le signe que vous pouvez repartir libre. Vous pouvez partir. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Maintenant que vous avez entendu le plein Évangile, vous n'avez plus à rester lié. Maintenant, si vous restez là à dire, « Oh, j'ai écouté cela, mais je ne l'ai pas entendu. » Voyez, très bien. Ce n'est donc pas pour vous. Non, non. C'est pour ceux qui l'entendent. Très bien. Si vous entendez, maintenant, regardez ce qu'il a dit ici. Eh bien, pour le prouver, soyez très attentifs maintenant et faites tourner vos méninges pendant les 2 ou 3 prochaines minutes. Si l'esclave, c'est-à-dire l'homme qui était sur le point de recouvrer la liberté, dit « J'aime mon maître. Oh, j'aime bien la danse. Pour rien au monde, je n'abandonnerai la danse. Pour rien au monde, je n'abandonnerai ceci ou cela ou autre chose, ma femme, mes enfants, les choses de cette terre que j'aime. » Maintenant, écoutez bien, frère Branham, je vais vous dire une chose. Voulez-vous dire que je dois... Vous n'avez pas arrêté quoi que ce soit. Entrez-y tout simplement et ça s'arrêtera tout seul. Mais vous dites, eh bien, je ne le ferai pas. Je n'ai pas à le faire. Je suis membre d'une église et je suis aussi bon que vous ou n'importe qui d'autre. Très bien, mon frère. C'est très bien. Vous avez entendu la vérité. Eh bien, maintenant, écoutez ceci. N'est-ce pas que Père, Fils, Saint-Esprit? Eh bien, si vous voulez continuer ainsi, allez-y. Vous avez entendu le son de la trompette et vous avez entendu la note qu'elle a jouée. Et la Bible dit, « Oh Dieu, regardez-moi ça. Est-ce que je ne pourrais pas y tirer un sujet sur le chant pour la prochaine heure? Si la trompette rend un son confus, si votre dénomination dit « Père, Fils et Saint-Esprit », cela ne sonne pas comme la trompette. Si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? L'esclave dit « J'aime mon maître. J'aime le diable qui me fait faire ces choses. C'est très bien. Et je ne pense pas. Je pense que vous êtes vraiment borné là-bas. Je pense vraiment que vous êtes trop borné. Très bien. J'aime ces choses. Je pense que nous devrions avoir ces grandes choses comme ceci et faire ceci. Le monde, nous avons des danses, nous jouons au loto dans notre église et des choses de ce genre. Nous passons tous du bon temps et ces gens sont tout aussi bons que n'importe qui de la bande que vous avez là-bas. D'accord. C'est très bien. Très bien. Et je n'accepterai pas cette liberté de l'esprit dont vous parlez. Alors, son maître, le diable, le fera venir vers les juges et le fera approcher de la porte. La quoi ? Qui est la porte ? J'ai mis devant toi une porte. Quand est-ce que cette marque de la bête est venue ? En cet âge-ci où la porte a été mise. Cette marque finale de la bête, le fera approcher de la porte ou du poteau. C'est le calvaire. Très bien. Et son maître lui percera l'oreille. Lui percera l'oreille avec un poinçon. Et l'esclave sera pour toujours à son service. Que voulez-vous dire, frère Branham? Si vous entendez la vérité de l'Évangile et que vous refusez de vous y conformer, alors Dieu fait une marque sur votre oreille de sorte que vous ne l'entendiez plus jamais. Vous avez franchi la ligne entre la vie et la mort. Dès lors, vous continuerez avec votre organisation, votre dénomination, pour le reste de votre vie, de vos jours, pour toujours. Marchez dans la lumière, mes enfants. C'est vrai, vous servirez ce maître pour toujours. Que cela, vous ne voulez pas. Voyez, la trompette a sonné et il peut repartir libre. C'est la grâce de Dieu. C'est l'année du jubilé, l'achèvement. Le jour du péché est terminé, frère. Je dis à chacun de vous qui servez le péché, à ceux qui écoutent les bondes ou à l'auditoire visible, vous êtes à tous ceux qui servent le péché. Le jour du péché est terminé. Jésus est mort. Vous n'avez plus à servir le péché. Vous n'avez plus à vous soumettre au credo et aux dénominations. Celui que le Fils a affranchi est réellement libre. Si vous désirez avoir la liberté, être libre dans le Fils, vous détacher de toute chose et le servir, allez-y. Mais si vous ne voulez pas, alors votre organisation, votre maître, peu importe qui vous servez, fera une marque sur votre oreille et vous ne pourrez plus jamais l'entendre. Si jamais Dieu parle à votre cœur et vous dit « Viens, c'est le moment » et que vous refusez cela, alors vous recevez sa marque. Elle vous endurcit à l'égard de la vérité. Voilà le sceau du diable, la marque de la bête. Vous voyez, que fait la marque de la bête? Elle vous ramène au romanisme, au système dénominationnel et vous n'entrerez plus jamais pour être libre. Vous servirez cela pour toujours. Voilà la marque de la bête. C'est dur, mes amis. C'est tranchant. Mais c'est ce que je ne suis pas responsable de. C'est simplement ce que dit la Bible. Donc, ça, c'était un type dans l'Ancien Testament qui préfigurait l'écoute de l'Évangile de la Bonne Nouvelle, qui annonce « Vous êtes libre. Vous n'avez plus à être lié. Vous êtes absolument libre en Jésus-Christ. Plus de péché et tout. Vous ne... » Vous qui aimez le monde, la Bible dit, si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Pas vrai? Si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Alors, qu'en est-il de toutes ces grandes choses qui se font dans le monde aujourd'hui au nom de la religion? Les choses du monde et les gens avalent ça tout rond comme un cochon dans une porcherie. Voyez, oh, ceci est très bien, cela ne vaut rien. Voyez, ils sont scellés et définitivement marqués. Voyez, maintenant, comprenez-vous ce qu'est le reste des Juifs, les 144 000, où ils se trouvent, où ils attendent, à cette heure même. Pouvez-vous maintenant voir cela? La vierge folle qui ne prend pas le, n'a pas pris l'huile, devra paraître et sera séparée, les justes et les injustes, au jour du jugement. Comprenez-vous que quand la vierge folle a commencé à admettre, comme en ce moment même, qu'elle avait besoin de ceci, qu'elle est allée en chercher, et que c'est précisément à ce moment-là que l'époux est venu, alors combien proches sommes-nous maintenant même? Il ne nous reste que peu de temps. Je ne sais pas combien de temps on a encore. Je ne pourrais pas dire quand. Je ne sais pas. C'est peut-être dans un an, peut-être dans 10 ans, dans 40 ans, peut-être dans 40 minutes. Je ne sais pas. Je ne saurais le dire. Mais je sais que c'est proche. C'est très proche. Et l'Esprit du Seigneur, maintenant, il viendra un temps où, soudain, l'Église commencera à se refroidir. Eh bien, combien de personnes ont remarqué le refroidissement de l'Église ces dernières années? Certainement. Où se dirige-t-elle? À Laodicée. Là, nous le verrons ce soir et nous présenterons l'ange de l'Église de Laodicée. Nous rendrons cela clair pour que vous puissiez le voir. et aussi voir son message, ce que sera ce message, ainsi que la fin de l'âge de l'Église de Laodicée, quand il chevauche et entre dans l'éternité. Oh, comme je l'aime! Pas vous? Oui, monsieur. Oh, le... Qu'est-ce que le... Qu'est-ce que le sceau de Dieu? Le Saint-Esprit. La marque de la bête, qu'est-ce que c'est? C'est de rejeter cela. Voilà les deux. L'un, c'est de voir. Et... Eh bien, ils sont... Et combien y en a-t-il eu sur la terre qui ne l'ont pas reçu? Tous ceux qui n'étaient pas scellés ont reçu la marque de la bête. Tous ceux qui n'avaient pas l'Esprit de Dieu avaient la marque de la bête. Le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La Bible l'a dit. Tous les passages de l'Écriture qui en parlent disent que c'est cela, la marque de Dieu, le sceau de Dieu. Et tous ceux qui ne l'avaient pas, c'était ceux qui avaient rejeté cela. Et comment avaient-ils rejeté cela? En refusant de l'écouter. Pas vrai? Maintenant, souvenez-vous, comment obtient-on la foi de ce que l'on entend? Où est-ce que la marque avait été faite? À la main? Non. À la tête? Non. À l'oreille, vous voyez, à l'oreille, ce qu'on entend, qu'est-ce que cela produit? Une cicatrice sur la capacité d'entendre. Ça suffit, direz-vous. Je ne veux plus en entendre parler. Je ne veux plus rien avoir à faire avec cela. Je ne veux rien avoir à faire avec cela. C'est juste comme c'est... Frère Neville, je vais simplement laisser cela de côté jusqu'à un... Je voulais vous parler de ce qu'il est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés, voyez-vous, de venir... d'entrer dans le royaume. Vous voyez, c'est comme ces croyants frontaliers. Regardez, il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés ont eu part au Saint-Esprit, ont goûté la puissance du siècle à venir, et qui tombent, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifieraient, pour leur part, le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie, qui tiennent pour profane le sang de l'Alliance, par lequel il était sanctifié. Voyez, c'est absolument impossible qu'un élu fasse une telle chose. C'est totalement impossible. Il ne peut pas le faire, voyez. Sinon, que serait-il en train de faire? Voyez, il serait en train de tenir le sang de l'Alliance. Maintenant, voyez-vous, s'il est élu et qu'il est dans le groupe, il ne peut pas le faire. C'est impossible qu'il le fasse. Maintenant, nous l'avons étudié et l'avons creusé d'un bout à l'autre. Lorsque la pluie tombe souvent sur la terre, pour la cultiver, et des épines et des chardons qui est prêt d'être réprouvé, et on finit par y mettre le feu. Le blé doit être ramené à la maison, dans le grenier. Mais cette pluie qui donne la vie tombe à la fois sur les mauvaises herbes et sur le blé. Tous les deux se réjouissent et ressentent la même chose quand là. Ils sont heureux de voir tomber la pluie. Mais c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, s'ils portent les fruits d'une mauvaise herbe ou les fruits du grain, bon, du blé. Maintenant, voici ce qui se passe. Eh bien, pour montrer où ce frontalier, où ce... J'essaie de vous présenter cette Vierge, vous voyez, alors vous allez comprendre. Maintenant, pour ce qui est du croyant frontalier, regardez ce qui s'est passé quand ils sont arrivés à Kadès Barnéa, les enfants d'Israël. J'ai juste pris cela de part et d'autre dans Genèse et de part et d'autre dans Exode et partout ailleurs, pour essayer de vous en montrer le type, vous voyez, pour que l'auditoire ne le manque pas. Maintenant, quand ces gens-ci, au cours de cet Exode, quand ils sont arrivés à Kadès Barnéa, Kadès Barnéa était le tribunal du monde en ce temps-là. C'est là que le tribunal d'Israël a été établi. En fait, il ne leur fallait que 11 jours de la montagne où ils avaient reçu les commandements jusqu'au lieu du jugement. 11 jours de marche sur la rive de la mer, dit la Bible. Après 11 jours de marche, ils sont arrivés à Kadès et c'est là qu'ils ont été jugés, alors que Dieu aurait pu les faire entrer au bout d'environ 4 jours. Ils sont retournés là, dans le désert, et se sont mis à errer. Ils ont reçu les commandements et des choses de ce genre. Ils sont retournés. Et comment? Ce qui est arrivé. Puis, ils sont arrivés ici. 11 jours plus tard, ils sont arrivés au lieu de leur jugement à Kadès Barnéa. Que s'est-il passé? Il en a pris un de chaque tribu et a dit, « Allez espionner le pays et voyez comment est le pays. » Eh bien, ils y sont tous allés pour l'explorer. Deux d'entre eux y sont entrés et ont cueilli une grosse grappe de raisin. Oh, une grosse grappe! Il fallait deux hommes pour la transporter. Maintenant, qu'ont-ils fait quand ils sont revenus et qu'ils avaient vu quelle sorte de pays c'était? Ils avaient vu les Amoréens et les autres qui vivaient. Et ils ont dit, « Eh bien, ce sont des géants !» C'était, bien sûr, les fils de Caïn qui s'étaient finalement établis dans ce pays-là. Il a dit, « Ce sont des géants !» Et a ajouté, « Nous ne sommes pas capables de nous en emparer. Leurs terres sont entièrement entourées de clôtures. Il y a de grandes murailles. Eh bien, nous sommes comme des sauterelles à côté d'eux. » Qu'avaient-ils fait? Eh bien, ils avaient certainement vu le pays. Ils en avaient goûté le fruit. Vous voyez, Caleb et Josué y étaient allés. Ils en avaient eu la preuve. Et ils l'avaient rapporté. Ils l'avaient transporté sur leurs épaules. Ils en avaient goûté le fruit. C'est vrai. Ils n'avaient jamais été là-bas. Mais Caleb et Josué y étaient allés et en avaient rapporté la preuve. Caleb et Josué ont dit, « Nous sommes capables de nous en emparer. » Voyez, pourquoi? Parce que Caleb et Josué regardaient à la parole. Dieu a dit, « Le pays est à vous. C'est rempli d'Amoréens, d'Éviens et de toutes sortes de Hiens qui y sont. Mais, a-t-il dit, « C'est à vous et tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. » C'est vrai, continuez simplement à marcher, vous voyez, c'est à vous. Mais ils ont dit, « Oh non, nous ne pourrions pas avoir un pareil réveil. Oh, eh bien, vous savez quoi? L'archevêque, ou l'évêque, ou les surveillants, ou quelqu'un viendra et nous mettra tous à la porte. Allez-y, c'est vrai, on l'aura. » Alors ces deux-là sont revenus et ont dit, « Nous sommes plus que capables de nous en emparer, car Dieu l'a dit, allons nous en emparer. » Mais voyez, ces croyants frontaliers, ils étaient allés assez loin pour y goûter. C'est bon, oui, mais oh, on ne peut pas le faire. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Voici le croyant d'aujourd'hui. Maintenant, regardez ce gars-ci. Dieu lui donne un appel. Ah oui, très bien. Là, il est sauvé. Sa mère fait des lessives sur une planche à laver. Elle l'envoie dans une université pour qu'il apprenne à prêcher. Eh bien, il arrive là. Et il continue à croire qu'il, chaque fois qu'il voit des femmes habillées de façon immorale, ça le met dans tous ses états. Chaque fois qu'il sent une odeur de cigarette, il ne peut s'empêcher d'en fumer une. Il sait que c'est mal. Il ne veut pas le faire. Alors, il dit, « Seigneur, sanctifie-moi, ôte ces choses de moi. » Dieu dit, « Très bien, je le ferai pour toi, mon fils. J'ôterai tout cela de toi. » Un soir, il entre en titubant dans une petite mission quelque part et il entend parler du baptême du Saint-Esprit. Il dit, « Dis donc, il a monté la première marche, la justification. Il a monté la deuxième marche, la sanctification. Maintenant, il est prêt pour le baptême. » Voyez, 1, 2, 3, il est prêt pour le baptême. Quand il arrive là-bas, il lit dans la Bible et dit, « C'est exactement ce qu'il faisait. » Oui, c'est exactement ça. Le baptême au nom de Jésus, c'est ce qu'il faisait. C'est vrai. Il m'a dit de relire cela. Je l'ai lu partout dans la Bible et il a parfaitement raison sur ce point-là. Monsieur l'évêque, qu'est-ce que vous... Je ne veux pas de ces absurdités. Oh, je vois. Ils avaient le Saint-Esprit, ils parlaient en langue, ils faisaient ces choses, ils guérissaient les malades. Oh oui, c'est tout à fait vrai. Ils regardent de l'autre côté, vous voyez. Ils regardent depuis la frontière. Oh, si j'enseignais ça à mon église... Oh, je suis presbytérien, méthodiste, vous savez, oh, l'évêque me mettra à la porte. Eh bien, nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas avoir une réunion comme ça dans notre église. Tous les gens se lèveront et s'en iront. Celui qui a été une fois éclairé et qui a goûté au don céleste, s'il tombe sur ce chemin qu'il a entrepris, pour revenir, être renouvelé et amené à la repentance, puisqu'il a péché contre Dieu. Le péché, qu'est-ce que c'est? L'incrédulité. Il a péché contre Dieu. Qu'a-t-il fait? Il a tenu l'alliance par laquelle il a été sanctifié pour profane et a méprisé les œuvres de la grâce qui l'ont amené jusque-là. Il ne reste plus de sacrifice pour lui, mais une attente terrible de la flamme du jugement et la colère qui dévorera le rebelle. Car à moi la vengeance, dit le Seigneur. Car la parole de Dieu est plus tranchante, plus puissante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager les os, et elle juge les sentiments et les pensées de l'esprit. Voilà, voilà. Quand vous voyez la lumière, marchez-y. Marchez. Vous ne savez pas où vous allez, mais continuez de marcher. Continuez de marcher vers le calvaire, gardant le regard bien fixé sur le calvaire. Marchez, marchez. Oh Dieu, puisse un jour, l'Église, qui est un type d'Enoch, il a marché 500 ans devant Dieu. Il marchait dans la lumière, et il avait ce témoignage. Tout ce que Dieu lui disait, il le faisait. Il ne lui déplaisait en rien. Ce que le Seigneur lui dictait, Enoch le faisait. Or, il était un type, rappelez-vous. L'arche est un type des Juifs, des 144 000, qui sont transportés de l'autre côté, Noé et son groupe. Mais Enoch est rentré à la maison juste avant le déluge. Vous savez cela. Alors Enoch marchait constamment dans la lumière. Alors un jour, il a senti que ses pieds quittaient le sol. Il a simplement continué à marcher. Il a marché jusqu'à ce qu'il entre dans la gloire, sans même goûter la mort. C'est vrai, Dieu l'a enlevé parce qu'il marchait dans la lumière. Il avait ce témoignage qu'il marchait dans la lumière de Dieu. Il marchait, marchait constamment. Mettons nos chaussures de marche, Église.
Walking in the light, beautiful light, comes where the dewdrops of mercy are bright, shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world.
Chantons-le maintenant.
Walk in the light, beautiful. Beautiful light, oh, come with the dewdrops of mercy are bright, shine all around us by day and by night, oh, Jesus, the light of the world, all ye saints of light proclaim, Jesus, the light of the world. Then the bells of heaven will ring. Jesus, the light of the world. Oh, we'll walk in the light. Such a beautiful light. Oh, come with
courbons la tête juste un instant maintenant. Je me demande s'il y en a ici qui aimeraient vivre l'expérience d'être rempli du Saint-Esprit. Dites, souvenez-vous de moi, frère Branham. Souvenez-vous de moi, Église. Je veux marcher dans la lumière. Je veux cette douceur, pas de racine d'amertume en moi. Je veux seulement être serviteur de Dieu. Levez la main et dites, souviens-toi de moi, ô Seigneur. Oui, 20 mains ou plus sont levées. Maintenant, gardez la tête inclinée, alors que nous chantons ensemble tout doucement.
Oh Jesus, light of the world, we'll walk in this light, it's such a beautiful light, it comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Come all ye saints of light, proclaim. Oh Jesus, He's the light of the world. Then the bells of heaven will ring. Oh Jesus, He's the light of the world. Oh, we'll walk in this light. It's such a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy are bright.
Seigneur Jésus, alors qu'il fredonne ce chant et qu'il désire marcher dans la lumière de l'Évangile, reçois ces précieux cœurs, Seigneur. Ils sont à toi, purifie-les, retire d'eux tout mal et toute incrédulité. Puisse Jésus, la lumière du monde, y entrer. Seigneur, il y a ici des mouchoirs pour les malades et les affligés. Va vers eux, Seigneur Jésus, et guéris-les, afin qu'ils puissent marcher dans la lumière. Accorde-le, Seigneur. Nous te remercions pour notre leçon, pour la présence du Saint-Esprit qui a été ici avec nous et qui nous a gardés pendant des heures, assis ici. Des gens se sont assis dans cette pièce chaude et ont été patients. Ils sont dans l'attente. Ils patientent et se posent des questions, Seigneur. Car alors qu'ils entendent la lecture de la parole, ils se rendent compte que nous sommes au temps de la fin. Il ne reste plus rien en dehors des divertissements de ce monde. Et un de ces jours, les imitations devront cesser. Et je te prie, ô Dieu, de sauver tous ceux qui sont dans la présence divine. Sauve-les par ton esprit, et que le Saint-Esprit vienne sur chacun d'eux et remplisse leur cœur de bonté et de paix, afin qu'ils produisent le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire la longanimité, la bonté, la paix, la patience, la douceur, la foi, par le Saint-Esprit. Accorde-le, Seigneur. Je te les confie maintenant pour ton service, au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Levons les mains alors que nous chantons. Oh, n'est-il pas merveilleux? Nous aurons un service de baptême qui prendra environ 10, 15 minutes, peu importe. Je pense qu'il y a ici une jeune femme qui désire se faire baptiser. N'est-ce pas? Très bien. Combien désirent se faire baptiser ce matin parce qu'ils ne peuvent pas revenir ce soir pour le service de baptême de ce soir? 1, 2, 3 qui ne peuvent pas venir cet après-midi. Ou avant le service du soir, pour se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, mes enfants. Je suis heureux que Dieu ait mis devant vous la porte ouverte. Et vous êtes prêts à entrer maintenant. Vous avancez vers la tombe, où toutes les choses anciennes sont mortes et enterrées. Maintenant, souvenez-vous, votre baptême n'est qu'une expression extérieure de ce qui s'est passé ici, à l'intérieur. Oh, cette grande communion, Ne vous sentez-vous pas bien? Oh, je me sens tellement bien. C'est comme quelque chose que j'ai déjà expérimenté. Une de ces brosses à l'ancienne mode, imbibée du savon à lessive et dont on me frotte. Mon frère a dit que peut-être tous ceux qui désirent se faire baptiser ce matin se préparent. Les vêtements de baptême et tout le reste seront mouillés ce soir. Mais ça ne fait rien si vous voulez le faire. Mais si vous êtes prêt à vous faire baptiser ce matin, c'est très bien. Je crois qu'il va falloir déplacer ceci, n'est-ce pas, frère Neuville? Très bien, monsieur. Maintenant, combien veulent rester pour assister au service de baptême? Prenez juste quelques minutes et, oh, peut-être que vous n'en avez jamais vu un. Si vous ne pouvez pas rester, eh bien, alors, assurez-vous de revenir ce soir. Mais j'aimerais que vous puissiez rester quelques minutes pour assister au service de baptême. Nous allons déplacer ceci et il y a un grand miroir là, derrière, qui permet de voir tous ceux qui y entrent. Cela vous frappera, j'en suis certain. Nous sommes ensevelis avec le Seigneur dans le baptême. Amen. De même qu'il est mort, nous sommes ensevelis en sa mort, ressuscités en sa résurrection, pour marcher en nouveauté de vie. Que le Seigneur vous bénisse. Combien savent quelle est la leçon de ce soir? Laodicée, le dernier, le point culminant des âges de l'Église. Très bien, place au service de baptême. Teddy, s'il te plaît. Vous voulez être avez déjà été baptisé. Il y en a qui doivent partir pour Chicago immédiatement, vous voyez. Prions. Seigneur Jésus, ils sont restés et ont écouté les services jusqu'au bout. Nous te les confions maintenant, Seigneur, alors qu'ils vont à Chicago. Va avec eux, Seigneur, et que chacun prenne cette merveilleuse lumière et la répande, Seigneur, dans toute la ville de Chicago. Partout où ils iront, sois avec eux, jusqu'à ce que nous nous revoyions, que leur esprit soit ancré en toi, au nom de Jésus. Amen.
Yea, I say unto thee, my servant, I have accepted thee. In the giving forth of my word, I will follow thee and will speak to thee in private. Yea, I will show thee thy itinerary. Yea, I will be with thee and will bless thee. Yea, my people, I say unto thee this morning, I am Almighty God. I am using this vessel this morning to come to thee through. I say unto thee, turn not aside from my spirit. Forsake not the voice that speaks to thee. I am with thee as thou wilt be with me. Turn from thy ways and turn from thy thinking. And believe me, for I am with thee. If thou wilt come to me and follow me in baptism, I will bless thee and preserve thee. I will bring thee in the fullness of the consummation. Yea, I have spoken. Will I not fulfill it? Yea, saith the Lord.
Levons simplement les mains et disons, merci Seigneur Jésus, loué soit ton nom. Merci Seigneur, nous reconnaissons cela Seigneur, que tu, un jour, l'Esprit est descendu sur un homme dans la Bible et a révélé tout le secret de Dieu, ce qui devait arriver. Père, nous savons que tu es toujours le même Dieu. Voici que tu es descendu sur cet humble petit pasteur ici, Seigneur, ce matin, qui était autrefois dans le nicolaïsme. Mais tu l'as secoué, il a vu la lumière et il est sorti. Voici que son cœur est disposé au point que tu lui parles, qu'il ne sait même pas ce qui sortira de sa bouche. Et il se lève et laisse le Saint-Esprit se mouvoir en lui et s'adresser à nous par la voix de la prophétie. Merci, Père, et je m'attendrai à toi pour la voie à suivre. Amen. Amen. Vous avez saisi cela, n'est-ce pas? Vous voyez ce que c'était? Observez le ton de la voix de cette femme qui parlait et remarquez que l'interprétation était donnée sur le même ton. Voyez, voici deux femmes distinctes. Je doute qu'elles se connaissent ou non. Elles ne se connaissent pas. Là, c'est le Saint-Esprit. Remarquez donc l'intonation de la voix. Ne vous rendez-vous pas compte que c'est Christ au milieu des gens ici? C'est vrai. Vous avez quelque chose que vous voudriez lire, frère Pat? Allez-y, voyez. Amen. Eh bien, ça, c'est la conduite de l'Esprit, la conduite divine. Vous voyez, le Saint-Esprit qui agit parmi les laïcs, qui va là-bas, qui parle. Oh, n'est-il pas merveilleux? Pensez-y, mes amis, c'est la même chose dont a parlé la Bible. Et on voit cela ici aujourd'hui. Nous n'avons plus à nous poser de questions à ce sujet. Oh, venez le recevoir, mes bien-aimés. Venez le recevoir. Teddy, alors qu'on se prépare pour le baptême, et je prie Dieu pour que vos cœurs soient prêts. Où il me conduira, j'irai. Puis-je vous aider ici, mes frères? Eh bien, il faut fermer le micro. Ah oui. Je vous adjure par le Dieu vivant et par l'exhortation de sa parole de venir vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Souvenez-vous, je le fais parce que la Bible nous oblige de le faire. Et Paul a dit de le faire. Et si un ange enseignait autre chose, qu'il soit anathème. Et comme il l'a fait au terme de mon voyage, j'aimerais faire cette déclaration. Je vous annonçais tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Tout à fait. Je suis pur du sang de tous. Oh, ne l'aimez-vous pas? Oh, comme je l'aime. Très bien. Levons-nous alors que nous chantons le cantique que nous avons l'habitude de chanter en nous séparant. Très bien. En attendant. Maintenant, alors que nous courbons la tête, chantons.
At the name of Jesus,